Cascodeur Podcast, épisode 150. Interview sur Scala avec Nicolas Leroux et Nicolas Martignol. Enregistré le 13 juin 2016. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 150 si tout va bien. Et on va parler de Scala, alors pas forcément le langage et les fonctionnalités en détail, mais plutôt le langage, Scala, l'écosystème et puis comment ça s'utilise en entreprise. Et pour ça, donc j'ai invité Nicolas, qui vont nous parler...
Les KS.
Et voilà, des Nicolas, qui vont nous parler justement de ça. Donc il y a Nicolas Martignol et Nicolas Leroux. Donc je vais vous laisser vous présenter, et puis après on va enchaîner sur la discussion.
Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Martignol, je suis directeur technique chez Captain Dash, et je fais du Scala depuis 2011. Je suis aussi l'un des co-organisateurs et fondateurs de la conférence des Rocks France, je blogue sur le Tour Express, et puis voilà, Nicolas.
Oui, bonjour, moi c'est Nicolas Leroux, donc je pense que tout le monde me connaît, n'est-ce pas? Je suis une grande star. Ah non, pas du tout, non.
Tu es déjà passé par cette antenne.
Ah oui, c'est vrai, en plus, oui. Et d'ailleurs, on avait eu plein de problèmes, on avait perdu l'enregistrement, etc. Bon, bref.
Ouais, on l'a fait deux fois.
Nicolas Leroux, donc moi je vis à Rotterdam, je suis maintenant le CEO de Lunatech. J'ai commencé en tant que stagiaire, donc tout est possible, vous voyez. Et Lunatech, on est 50%, et ce qui est intéressant, donc on a des bureaux en France et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils sont à peu près 45. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux Pays-Bas, on a 80% de nos projets qui sont en Scala. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici, non, d'après ce que j'ai compris.
D'accord. Et après, voilà. Et après, c'est un choix de, c'est vous qui avez orienté un petit peu, ou ça s'est fait comme ça?
Oui, en fait, c'est surtout nos développeurs qui ont orienté, parce que nos développeurs sont très geeks. Et non, quand Scala est arrivé, bon, après, moi, j'ai participé énormément à Play Framework aussi. Et c'est vrai que les développeurs ont vraiment poussé. Puis, petit à petit, le marché s'est quand même réveillé autour de Scala. Donc, c'est vrai que, voilà. Maintenant, on fait beaucoup de Scala. Ce qui n'empêche pas de dire que on en parlera après, c'est que, il y a des fois où chez les clients, mais il vaut mieux faire du Java parce que leur équipe de développement sont pas prêtes du tout pour faire du Scala. Mais on en parlera tout à l'heure, je pense.
Ouais. Ah, d'accord. Ça va être intéressant de voir ça. Alors, bon, d'abord, c'est quoi Scala? Comme ça, on mettra ça derrière.
C'est un langage qui a 10 ans. On a fêté les 20 ans de Java, je pense que tout le monde se souvient des Rocks Belgique, les 20 ans de Java. Il fallait savoir aussi que en parallèle on fêtait les 10 ans de Scala. La vraie première version, alors le langage était un peu plus vieux que ça, mais la vraie version qu'on considère comme étant celle qui était utilisable par l'industrie, elle date de mars 2006. C'est un langage qui a été créé par Martin Oderski, professeur à l'EPFL de Lausanne, et c'est vraiment un langage qui tire ses racines et qui est vraiment cousin de Java. Il faut savoir que Martin Oderski, c'est lui qui a sur Java fait deux projets importants. D'une part, les génériques que vous utilisez certainement tous aujourd'hui, donc c'est lui qui a introduit ce principe-là. Et avant ça, il a travaillé sur le Just-in-Time Compiler, donc il y a 16 ou 17 ans. C'est en tout cas une personne qui est professeur, qui est vraiment animée par l'amour des langages, et qui a tiré petit à petit une communauté, créé une fondation, qui a créé une société qui s'appelait TypeSafe, qui s'appelle Lightpen aujourd'hui. Donc voilà, Scala, c'est Scalable Language, un langage qui vient du monde de l'univers Java, et qui vit sa petite aventure avec des caractéristiques différentes. L'une des caractéristiques les plus fortes, c'est qu'il est multiparadigme, donc il est objet comme Java, et il est aussi fonctionnel, et donc c'est vraiment un langage qui se place à la frontière entre le monde fonctionnel et le monde objet. On peut écrire du code très proche de ce qu'on aurait l'habitude de faire en Java avec une programmation un peu impérative. Et on peut pousser tranquillement le curseur vers la programmation fonctionnelle. C'est vraiment un langage qui a été pensé aussi pour pouvoir écrire des applications qui sont scalables, des applications aussi qui sont un petit peu moins verbeuses. Alors je vais essayer d'éviter de comparer toutes les 5 minutes à Java, mais forcément Nicolas et moi on est quand même aussi des développeurs Java, donc on va certainement beaucoup comparer le langage, donc pas forcément dans l'idée de dire c'est mieux, c'est moins bien, mais simplement pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu ce qu'est vraiment ce cas-là.
Et d'ailleurs, pour poser dans le contexte, finalement, ce cas-là, il a fait son bonhomme de chemin de manière assez confidentielle pendant un certain temps. Et puis, c'est au moment où Java, il y a eu des gros points d'interrogation sur la version d'après. Il y avait eu Sun dans la panade, rachat d'Oracle, rien qui se passait. Et je pense que c'est là où ce cas-là a vraiment pas mal décollé historiquement, non ?
Bah, il y a eu, enfin, Nicolas, tu me dis si t'es d'accord, il y a eu quand même un effet de mode qui est un petit peu retombé. Il y a eu un bel effet de mode sur Scala. Moi, je m'appuie toujours à ce que je vis quand je suis dans les conférences. 2010, 2011, on parlait beaucoup de Scala et c'était vraiment un langage qui était poussé. Aujourd'hui, c'est plus en retrait. On parle moins du langage et on parle beaucoup plus des librairies. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des présentations sur Akka, sur Spark, sur du machine learning, et on va te dire, ah oui, au fait, c'est fait en Scala. On va te parler de Play Framework, et on va te dire, oui, Play Framework existe en Java et en Scala, mais j'ai l'impression qu'on est sorti un petit peu des présentations sur le langage, et qu'on arrive maintenant à des présentations et à des sujets sur les librairies. Et si on regarde Java, c'est la même histoire, hein. Java, au départ, on parlait énormément des capacités du langage, et j'imagine que les premières conférences de Java One, ça devait être sur qu'est-ce que c'est que les génériques. Si tu retournes à Java One en 2015-2016, on te parle des outils, des frameworks. Donc on en est là, en fait. On a passé le cap où on discutait du langage, et là, on est plus dans l'univers de discuter des librairies. Enfin, c'est vraiment les sujets qui animent la communauté.
Et en fait, ce cas-là est aussi très connu dans tout ce qui est big data, on va dire, et machine learning. C'est-à-dire que maintenant, il y a des outils qui sont proposés vraiment pour faire ça. Et donc, en fait, on entend surtout parler donc énormément de Spark, donc au-dessus de Hadoop, etc., machine learning. Et c'est vraiment, ben en fait, c'est tout fait en Scala. Et les gens qui arrivent sur ces outils développent en Scala, en fait, sans trop s'en apercevoir, en fait.
D'accord. Et on va mettre ça justement derrière nous. Donc, le PFL, en gros, Martin Oderski et le PFL étaient sont les gardiens de Scala. Ensuite, il y a eu le démarrage de TypeSafe. Ouais. Je sais pas si c'était son nom initial, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, il y a eu un virage de TypeSafe vers le runtime plutôt que le langage. Ou en tout cas, ils ont amené une plateforme. Et puis il y a eu des micro polémiques puisque les dernières librairies que eux offrent en tout cas étaient fournies en Java initialement. Alors j'imagine qu'ils ont rattrapé, qu'ils ont une API Scala maintenant, mais du coup ça a fait poser plein de questions. Donc est-ce que vous pouvez raconter votre point de vue à vous
on parle de gens utilisateurs. La gomme, c'est ça, parce que c'est vraiment le dernier composant.
Ouais, le dernier en date, c'est la gomme. Ouais.
Non, il est toujours en Java, ouais. Hein, que je sache.
En fait, TypeSafe, c'est 2011, et derrière, il y a des investisseurs qui ont mis de l'argent, notamment Red Hat, si je ne dis pas de bêtises, Nicolas.
Non, c'est pas Red Hat, c'est les anciens investisseurs qui étaient chez Red Hat. Mais c'est pas Red Hat directement, c'est Grey Lord, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Donc c'est les mêmes investisseurs qui ont investi dans Red Hat.
Donc en 2011, ils ont lancé TypeSafe. Martin Oderski a pris le lead de la société. Il y a tout un board de conseillers. Dans ce board, il y a notamment Guillaume Bord, qui est l'un des fondateurs de Play Framework. De fil en aiguille, je peux donner un point de vue qui est que TypeSafe est devenu Lightblend, a changé de nom et a pris le virage un peu plus vers le monde Java. Clairement, quand on regarde la gomme, je sais pas comment on prononce, et ce qu'ils sont en train de faire, ils essayent d'aller chercher, je pense, un peu plus une compétition. Ils viennent chercher les gens qui font du JBoss, pour moi. Qui ne sont pas, à mon avis, les personnes qui font du Scala. Donc, c'est un mouvement, je pense aussi, qui est appuyé par le fait que, financièrement, il faut que la société se développe. Donc, ça, c'est ce que fait Lightblend. En dehors de ça, Martin Oderski a lancé en mars 2016, donc là, il y a 3 mois, une nouvelle initiative. Donc un projet chapeau pour prendre le lead sur le langage Scala. Symboliquement, il l'a d'ailleurs mis hébergé à l'EPFL. Martin Oderski reste aussi le CEO de Lightblend, mais je pense que sa volonté, c'est que le langage reste porté par le monde universitaire. Donc il a créé une espèce de fondation dans laquelle on retrouve des sociétés comme IBM qui a mis de l'argent. Donc il y a 7-8 sociétés et aussi Lightblend. Je pense que sa volonté, c'est de laisser le langage avec une communauté de sages, et que Lightblend, en parallèle, est le développement commercial avec effectivement, pour moi, une approche qui est plus proche de Red Hat JBoss. Et pour éviter un peu les conflits d'intérêts, je pense que c'est aussi pour cette raison-là que TypeSafe est devenu Lightblend. Donc tout ça, c'est de l'analyse de bistrot, hein. Je peux pas vous argumenter ça.
Petite correction.
C'est du feeling.
Martin Odarski n'est pas le CEO de Lightblend, c'est Mark Brewer. Et Martin Odarski, je crois que c'est le, Odarski, c'est le main architecte, quelque chose comme ça. Et oui, okay. Tout ça a à voir avec des, revenus, hein. Il faut qu'il fasse du revenu, et vendre un langage, ça a jamais rapporté d'argent. Enfin, avant, ça devait rapporter de l'argent, mais depuis que on paye pas de royalties pour les langages, etc., c'est très dur de faire l'argent. Donc, ils ont le même business model que Red Hat, en fait, que Emmanuel connaît bien, n'est-ce pas ?
Où j'espère, sinon c'est
où ils revendent donc des subscriptions à l'année sur des produits. Et en fait, des produits, qu'est-ce qui intéresse les grosses compagnies, c'est d'être assuré sur leur runtime, sur tout ce qui est aussi librairie open source, etc., qui a une certaine garantie que ces librairies peuvent être utilisées et qu'on va pas se retourner vers eux, et que si jamais ils ont un problème, ils peuvent se retourner vers quelqu'un. Donc c'est exactement le même modèle que Red Hat, en fait. Et donc je pense qu'ils essayent de aussi s'intéresser à avoir leur propre JBoss, leur propre runtime, et puis vendre derrière une certaine assurance. Et c'est pour ça que la gomme est intéressant, parce que avant on avait des choses assez simples, et maintenant la gomme, je sais pas si vous avez vu, hein, c'est pas le plus simple des frameworks, des micro frameworks, etc. Donc faut faire pas mal de trucs avant d'avoir quelque chose qui tourne.
Vous pensez que dans ce cas-là, alors on va dire le langage et le compilo, ça reste quand même beaucoup des gens de Lightblend qui bossent dessus ?
Je pense que c'est surtout énormément de gens de l'EPFL qui bossent dessus. Les gens de Lightblend, en fait, oui, participent. Bon, c'est eux qui c'est plus structuré. C'est pas tellement dans le langage où ils sont. Bon, il y en a un ou deux, hein. Mais c'est plus pour développer des produits autour de ce cas-là et autour de tout ce qui est. Ben, c'est eux qui ont lancé tout ce qui est Reactive Platform. C'est aussi quelque chose. On va dire, c'est quelque chose un peu cyclique, hein, de toute manière. Oui, on est réactif. Bon, ben, c'est un peu du marketing, et c'est des produits autour de ce marketing. Qu'est-ce que c'est, en fait, c'est histoire de dire bon, il faut que regardez, prenez notre plateforme, nous on est adapté au tout ce qui est maintenant tout doit être sur le web, on peut gérer 10 000 clients en même temps, etc.
Donc c'est Play Framework par exemple à la 2.4.2.5. Play Framework, c'est vraiment Lightblend derrière, ouais. qui est en train de driver la roadmap. Il faut savoir que là on a Nicolas qui est avec nous, qui est l'un des core contributeurs de Play Framework.
Qui était
Guillaume Bor, c'est pareil, il est parti chez Criteo, il bosse plus dessus, et ils ont lâché les clés de la voiture, et aujourd'hui c'est Lightblend qui fait Play Framework.
Et ça se voit pas mal,
malheureusement. Scala IDE, pareil, c'est fait. Donc tout ce qui est tooling, oui, l'argent qui est investi dans la société est remis dans des produits qu'après on peut utiliser, qui sont des produits open source comme Play. Et après il y a du support. Enfin, c'est vraiment ultra classique, et c'est vraiment un copier-coller finalement de ce qui se passe chez JBoss.
Oui, chez JBoss et chez DataStack. Hein, DataStack fait exactement la même chose avec Cassandra, par exemple.
Ouais. Donc, alors, si vous entendez une perceuse derrière moi, je suis désolé.
<C'est> je vous ai pas dit, mais moi, en Hollande, j'habite juste à côté de la caserne des pompiers, donc il ne faut pas s'étonner. Hein.
D'accord. Ok, on va passer au. Donc ça, c'est le contexte. On va passer aux usages et quand est-ce qu'on utilise Scala. Donc en théorie, qu'est-ce qu'on peut faire avec Scala? Et puis, je pense que ça va être très court ça. Et puis après, en pratique, où est-ce que vous pensez que c'est utilisé et que c'est le plus pratique, le mieux à être utilisé.
Ce qui est sympa avec Scala, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben exactement la même chose qu'en Java. Donc on va me dire, mais pourquoi vous utilisez Scala alors qu'il y a Java? Oui, très bonne question. À part qu'en Scala, on peut le faire en plus court. Et donc l'idée, c'est aussi qu'on peut le faire aussi de manière un peu plus safe. Donc je vais laisser Nicolas expliquer tout ça très bien, parce qu'il est beaucoup plus pédagogue que moi.
effectivement, je dirais que c'est un cousin qui permet de faire. Enfin, j'ai pas vu d'anti-pattern à aucun moment en faisant du Scala, je me suis dit, bah, je serais plus à l'aise en Java, ou si j'ai eu ce sentiment-là, c'était plus lié à la maturité des librairies et des outils. Donc on peut faire quasiment tout ce qu'on fait en Java, modulo, le fait que la communauté, les outils qu'on a en Java sont quand même juste énormes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Scala peut utiliser vraiment de manière transparente les librairies Java, et il arrive très couramment que dans un projet Scala, on ait du code Java. J'ai une petite expérience personnelle, c'est que il y a 2 ans, j'avais commencé avec JodaTime sur un petit projet, enfin une des applications pour ZapTravel, parce que JodaTime, je le connaissais sous le bout des doigts, et j'ai découvert un peu plus tard une librairie un peu plus sympa pour faire des manipulations de dates en Scala, donc j'ai repris mon code, mais entre-temps, pendant 4-5 mois, ça a tourné en production, ça a très bien fonctionné, et c'est vrai que quand j'ai écrit ce code-là avec JodaTime, c'était parce que mon problème n'était pas de trouver une énième librairie de DateTime, et c'est quand même un énorme pouvoir, une énorme puissance que de pouvoir s'appuyer sur les librairies Java, quoi. Donc après, on peut l'utiliser pour faire des applications web, pour faire effectivement des traitements big data. On peut faire des sites de CFP pour des conférences, on peut faire des systèmes de calcul répartis. C'est avec le framework ACAS, c'est aussi un langage qui permet de faire de la programmation distribuée assez facilement, et c'est assez sympa à faire. Donc globalement, je vois pas trop d'anti-pattern. Il y en a même des gens qui font du Scala JS et qui vont coder en Scala, c'est transtypé vers du JS. Il y a des gens qui font du Scala sur Android. Donc voilà, c'est quand même assez ouvert. L'écosystème, là, les contributeurs, on laissera dans les show notes une liste de projets assez sympas, mais on peut faire quand même beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord. Et du coup, ça a attiré quel public ? Parce qu'en fait, on sait, hein, la popularité, ça vient, c'est pas forcément intrinsèque à l'outil, mais c'est aussi un public qui rencontre un outil, et voilà. Du coup, c'est quoi le public aujourd'hui des développeurs Scala que vous voyez ?
En fait, ça dépend un petit peu chez les juniors. Comme maintenant, par contre, Scala est enseigné à l'école, assez, donc dans les, je crois que ça dépend un peu, mais enseigné à l'école.
Maternelle.
Ouais, maternelle, oui, d'ailleurs, c'est pour ça. C'est ça, l'école, c'est le nouveau truc, non, en France. Il faut apprendre Scala à l'école, comme ça. Ouais. Comme ça, plus personne ne fait de grève. Ils sont tous en train de réfléchir.
Bon, c'est un public. Il y a deux. Enfin, ça a vraiment changé.
Au départ, c'était vachement connu pour tout ce qui était trading dans les banques, etc. Parce que c'était, c'était massivement. On pouvait le répartir sur plusieurs ordinateurs, etc. On pouvait le massivement scalable. Donc, ça vient de ça, Scala. Donc, il utilisait beaucoup dans tout ce qui était trading, etc., entre différents systèmes, banques. Et maintenant, on voit un peu de tout, en fait. C'est énormément, dans toutes les startups, c'est utilisé pour plein de trucs, en fait. Parce que je pense que c'est un peu le langage
à la mode. Le public, je ne sais pas si Scala vise explicitement les développeurs Java, mais en tout cas, clairement, le ticket d'entrée quand on est développeur Java est quand même beaucoup plus facile. On a un énorme avantage à avoir fait du Java quand on fait du Scala. Et on parlera aussi qu'il y a une difficulté assez importante. Je pense que Nicolas et moi, on est tous les deux des développeurs Java avec plus de 15 ans d'expérience, donc on pourra aussi donner les difficultés qu'on a rencontrées tout à l'heure. Mais sur le public vraiment visé, Scala s'adresse aux grands comptes, aux startups, et je pense aussi aux développeurs qui ont envie de tester ou d'apprendre autre chose. Et aussi, dans la communication, il se positionne comme un langage qu'on peut apprendre comme première langue, quoi. Donc là, si on fait l'analogie avec la langue maternelle et la langue que t'apprends, je dirais que ma langue maternelle, c'est Java, et ça restera Java. Après, voilà, je me suis mis sur le tard à Scala, comme si j'avais décidé de parler allemand. Donc au début, c'est un peu difficile, puis aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais ma langue maternelle restera Java, parce que j'en ai fait vraiment, vraiment très longtemps. Et chez ZapTravel, moi, j'avais recruté des gens qui ne venaient pas de l'univers Java, sauf Guillaume, qui était développeur Java, mais j'avais une personne qui venait du monde Ruby, un jeune qui était en fin d'année d'études d'école d'ingénieur, qui avait fait un peu de Java et qui s'est formé à Scala assez facilement. Et chez Capitaine Dash, là par contre, pour le coup, sur le recrutement des personnes, j'ai vraiment des gens qui ont tous un passif de développeur Java, sauf une personne qui a fait du Node.js et du Ruby. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes n'ont pas plus de difficultés ou moins de difficultés, c'est que sur certains points, ils vont galérer plus, et sur d'autres, ils vont être beaucoup plus à l'aise. Donc finalement, son passif de développeur fait que quand on va apprendre ce cas-là, il y a des domaines sur lesquels ça va pas être facile et d'autres domaines sur lesquels on sera à l'aise.
Nous, chez Lunatech, c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes là, en ce moment. Et c'est marrant, c'est des jeunes, ils ont fait du Scala à l'école, certains, pas tous. On a aussi des développeurs C#, c'est intéressant, qui eux viennent et en fait, ils n'ont pas trop de difficultés, enfin moins que les autres. Et on a des développeurs PHP qui n'ont rien à voir. Mais comme ils connaissent pas l'object orienté, c'est très bien. Du coup, ça leur change pas trop. Mais après, nous on fait beaucoup de...
C'est ça le fonctionnel, c'est quand c'est pas object-oriented.
Ben, en fait, non, parce que pour tout ce qui est structure, object-oriented, c'est bien pratique quand même, quand on a une forme, etc. On fait beaucoup d'applications web quand même. Et c'est quand même bien pratique. Mais en fait, le plus facile pour apprendre, c'est vraiment prendre un play framework, du play. Et là, on apprend vite, en fait. C'est concret. Puis après, bien sûr, on en parlera après, mais ça vient pas en une journée. Hein, mais tous les langages, enfin, les gens qui apprennent du Java, il leur faut 2 ans pour vraiment maîtriser. Hein, il faut pas. Et encore, 2 ans, c'est pas. Et donc, c'est un peu pareil avec Scala. De toute manière, c'est pas. Après, on peut l'avantage des gens qui font du Java, c'est qu'ils peuvent très vite écrire du Scala, en fait. Puis il faut pas être on va écrire du Scala comme on écrit du Java, ben c'est très bien pour commencer, c'est très très bien. Puis après petit à petit ça vient, il faut pas se formaliser là-dessus et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut aller fonctionnel, mais bon il faut savoir prendre son temps aussi. Et puis c'est pas, des fois fonctionnel c'est pas le mieux, des fois c'est mieux, tout dépend du contexte un peu.
D'accord. Du coup, on a pas mal transitionné, mais on va parler du socle. On va commencer par le langage justement, et surtout votre expérience de l'avoir appris. Il est plus puissant, il y a plus d'outils en termes théoriques. Est-ce que, par exemple, des fois tu peux faire du fonctionnel, des fois tu peux faire de l'objet. Moi, je me rappelle quand je suis passé du procédural à l'objet, j'étais perdu quoi. Enfin, il m'a fallu un certain temps avant de me dire bon, ça va maintenant, je sais quand faire quoi, etc.
Il y a un premier truc, c'est que mon expérience, c'est qu'on se pose vachement de questions à essayer de comprendre pourquoi on fait les choses et à se dire mais pourquoi c'est fait comme ça. Et je sais que j'ai eu une tentative avortée en 2010. J'ai essayé d'apprendre Scala tout seul pendant l'été. Je me suis dit tiens, je vais raconter ma vie sur mon blog et je vais très fièrement raconter mes aventures. Et j'ai fait ça 3 ou 4 fois. Alors ça prend du temps d'écrire des articles de blog et je me suis fait démonter très juste titre. Et quand je relis les articles aujourd'hui, j'ai honte. Mais quand je les ai écrits, j'étais vraiment la fleur au fusil en me disant « je vais convertir le monde et partager ma passion ». Et pour moi, 2010, c'est une expérience qui a duré 1 mois et demi. Et après, j'ai rangé Scala dans un tiroir. Je me suis dit « ça sera pas pour moi ». Et vraiment, 2010, je me suis dit « je serai toujours développeur Java et Scala, ça va pas ». Et ce qui n'allait pas, c'est qu'en fait, la marche était quand même assez haute. Que 2010, il y avait des livres, il y avait des ressources, mais on avait quand même un public qui était très centré sur le langage, et il n'y avait pas encore assez de frameworks, de librairies ou de choses qui me rapprochaient de la réalité et de me dire bah je vais m'en servir lundi matin au boulot. Donc j'arrivais à faire des exemples, mais j'arrivais pas à avoir l'effet waouh quoi. Donc je me suis arrêté, j'ai laissé tomber quoi. Et en 2011, à l'été 2011, je suis venu bosser sur une mission en freelance avec Alexis Agaï, qui est le gars qui a créé le Paris Scala User Group. Et Alexis me dit, bah viens bosser avec moi, mais je te préviens, c'est du Scala, j'ai besoin de toi pour faire du web. Donc il me dit, t'en as pour 1 mois. Donc on bosse ensemble. Et là, avec lui, effectivement, je découvre vraiment Scala. J'ai aussi un gars qui répond à mes questions. Et puis, on fait du Play Framework. Alors, du Play Framework 1. Version 1 avec du Scala, c'était assez rigolo, mais j'ai appris vachement, et c'est comme ça que je me suis vraiment lancé, parce que j'avais trouvé enfin un truc où tu tapes du code, tu peux voir un résultat qui s'affiche, et t'as l'impression que ce que tu fais, tu vas pouvoir manger avec et te faire payer des factures, quoi. Et donc 2011-2012, l'aventure de Zap Travel, Et je me suis rendu compte en fait que la communauté Scala était assez fermée. Il n'y avait pas beaucoup de gens et les rares personnes que je croisais en France étaient quand même assez éloignées du monde des startups ou de la réalité industrielle. Et on me parlait rapidement de mots comme Free Monade, Functor et compagnie. Et j'ai pas vraiment accroché avec cette typologie de personnes en me disant elles ont certainement de raisons. Mais enfin, on se sent bête. Hein. Je pense que humblement, on passe du statut cador en Java.
Je suis pas d'accord. C'est eux qui sont intelligents. C'est un peu différent.
Je sais pas, mais il y avait le phénomène de moi j'en sais plus que toi, donc qui est à aujourd'hui a quand même vraiment beaucoup disparu quoi. Et de fil en aiguille, c'est clair qu'au début je pense que le code que j'écrivais ressemblait à du Java sans les points virgules à la fin et avec des vals au lieu de mettre les types. Et puis petit à petit, bah on y va. Et un jour on retire les petites roulettes sur le côté, on se lance et puis aujourd'hui je suis à l'aise. Mais clairement, oui, ça pique. Et ça pique parce que derrière, moi, je faisais du Java depuis 97-98, donc j'étais vraiment les deux pieds dedans. Et pour moi, ça a piqué. Je sais pas si Nicolas.
Piqué, oui et non. Enfin, oui, ça dépend quand on regarde. Moi, ce que je faisais énormément, c'est regarder les librairies open source, etc. En Scala. Et moi, j'ai pas trouvé le choix. En fait, Guillaume a dit non, non, Play, maintenant Scala. Bon, d'accord. Et donc c'était pas mal, mais alors entre Guillaume et Sadek c'était un fou de langage fonctionnel hein, avec les itératés, etc. Et oui, là ça piquait. Enfin c'est comme tout le monde dit, il y a des hiéroglyphes de partout. Mais en même temps, une fois qu'on a compris, bah, ça a beaucoup de sens. Donc après le problème c'est que tout le monde veut apprendre à créer des librairies. Donc Scala est assez bien partitionné pour ça. Il y a des utilisateurs normaux, c'est-à-dire comme toi, moi, etc., qui eux ne créent pas de librairies. Donc on n'a pas grand-chose à savoir en Scala. Donc c'est bien, on peut y aller. Petit à petit, comme tu dis, de Java à Scala, ça va. Ceux qui créent des librairies, ben c'est ça qui est bien avec le langage, c'est qu'on peut vraiment, c'est très expressif pour faire ça.
Je pense que la difficulté, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ouais, t'as raison, c'est vraiment ça en fait.
Il faut savoir se limiter en fait, et c'est ce que tout le monde reprochait au C++ aussi, entre parenthèses. Hein. Donc, il faut savoir se limiter, il faut toujours penser, mais c'est n'importe quel langage, et je dirais c'est un problème plus général dans le développement et en informatique, c'est que tout le monde peut faire n'importe quoi, celui qui arrive derrière toi, il comprend plus rien. Bon, super. Ou alors, tu fais en sorte que tu penses aux gens qui viennent derrière toi et voilà, tu laisses quelque chose de propre. Par contre, ce qui est bien en ce cas-là, c'est que justement, si on fait une librairie qui est destinée à beaucoup de monde, là, on peut cacher et on peut faire beaucoup de choses très intéressantes.
Mais du coup, est-ce que toi, en tant que gars qui va commencer à construire ta stack, quoi, à la main, tu vas aussi la responsabilité d'aller voir la librairie et te dire non, celle-là, elle est faite pour les demi-dieux. Il y a le fameux exemple Scala Z.
Chez nous, chez Lunatech, il y a de plus en plus qui justement Scala Z, c'est super, etc. Les autres derrière, qui arrivent derrière, ils comprennent rien. Donc soit faites des trainings en interne ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas si dur que ça hein, si on réfléchit. Mais c'est vrai que ça choque au départ parce que il y a des hiéroglyphes de partout. Alors, et puis comme pour ils aiment bien mettre leur hiéroglyphe, je sais pas pourquoi, au lieu de mettre un nom. Enfin bon, bref, ça c'est un autre.
Mais Scalazy, c'est faire attention parce que c'est vraiment, c'est pas fait par les gens qui font le langage Scala. Ça a été fait par un groupe de personnes qui sont des personnes du monde fonctionnel qui se sont dit, nous, dans le langage Scala, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit 80% fonctionnel.
C'est exactement ça.
Et qui ont apporté. C'est un projet qui a eu beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la communauté. Tony Morris, son créateur, est un mec tellement exécrable qui s'est fait dégager il y a 2 ans de son propre projet. Il y a d'autres projets beaucoup plus accessibles avec beaucoup moins de signes cryptiques qui ont été créés. Moi, je pense à la librairie Cats, comme le chat. Et sur le site de Cats, sur typesafe.org, il y a des tutoriels qui expliquent vraiment simplement qu'est-ce que c'est que un monoïde, un functor, des applicatives, et sans cérémonial, et sans jeu de jambes, et sans demander d'avoir un doctorat en mathématiques. et en parlant à des gens qui vont coder du code qui part en prod le lundi. Donc on en est là, mais il a fallu attendre 2016. Malheureusement, le mal est fait. Et c'est vrai que les développeurs Java qui ne connaissent pas ce cas-là vont parler, je pense à la mailing list des cascodeurs, vont parler effectivement de ce code horrible avec des mots-clés. On dirait que c'est de l'incantation runique pour faire marcher ton code.
Mais c'est exactement moi, ça, en fait.
En plus, c'est ça. Hein. Moi, mon expérience, c'est que si un développeur chez moi venait écrire ça, je pense qu'on aurait une bonne discussion. Parce que le code est quand même fait d'abord pour être lu par des humains, et Scala et Martin Oderski l'écrit dans l'histoire de Scala, il dit que lui, il a voulu un langage qui soit moins verbeux, typé fort, qui mélange l'orienté objet et le fonctionnel, qui soit facile à apprendre et qui ne soit pas piégeur, qui puisse aider le développeur en faisant de l'inférence de type. Quand ce mec-là, il a créé Scala, il s'est dit, on va faire un langage qui n'est pas mieux que Java, mais qui est différent et qui essaye vraiment d'apporter des éléments pour rendre la vie du développeur plus simple. Et à aucun moment, il a dit, on va pouvoir utiliser des symboles Unicode pour remplacer les noms des fonctions par un symbole que personne s'est tapé sur son clavier, quoi. Donc c'est malheureusement du mal qui a été fait à la communauté et au langage. Aujourd'hui, les gens ont réagi. Il y a quand même aussi énormément de gens qui font qui programment en Scala aujourd'hui. Nous, il n'y a pas Scala Z dans la source tree de Captain Dash. Il y a un projet où il y est. Et on peut utiliser quelques petites parties, mais c'est pas quelque chose qui est complètement indispensable, loin de là. Ça peut être intéressant pour les gens qui font des librairies. C'est pas vraiment intéressant pour les gens qui font des applications, qui font des projets, qui s'appuient sur Scala. Je pense qu'on peut faire l'analogie, enfin, je trouve que Guava est simple pour le coup, mais on peut trouver certainement dans le monde Java un framework qui est un peu difficile pour un débutant et qui nous paraît facile parce que on est plein dedans, quoi. Moi, j'ai du mal à relire aujourd'hui certains codes avec les génériques en Java parce que j'en fais plus depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait une ligne de code Java, et c'est vrai que si tu me mets sur le code d'Hibernate OGM, je serais certainement pas productif. Il faudrait que je reprenne l'habitude de lire du code Java. De même que j'avoue en toute transparence, sur Java 8, je me suis un peu intéressé et j'ai fait quelques exercices. Mais si aujourd'hui je devais lire du code en Java 8 à fond la caisse avec les lambda et compagnie, j'aurais plus de mal. J'aurais quand même assez de facilité parce que dans le monde Scala, c'est quand même assez proche. Mais aujourd'hui, je me demande même si quelqu'un... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, sur Java 8, je me fais balader sans problème par quelqu'un qui est au fait et à la page de tout ce qu'on peut faire.
Ce qui est pour ajouter là-dessus, tout ce qui est functor, etc., c'est... En fait, il n'y a pas besoin vraiment de le savoir. C'est très pratique. Ce sont des fonctions très pratiques, etc. Mais moi, j'oublie tout le temps. Je suis toujours en train d'aller sur Internet. Ah oui, c'est ça déjà, etc. En fait, on l'utilise. Ce qui est important, c'est d'utiliser les choses. Après, quand on veut faire sa propre librairie, ben oui, là, il faut savoir. Mais bon, un petit coup d'Internet, de Google, et puis ça va vite, quoi. Mais
c'est... Tu fais du Stack Overflow Driven Development.
Exactement.
Emmanuel, c'est optionnel en Java 8.
Oui.
De quoi?
Pour encadrer une valeur qui peut être nulle.
C'est ça, et l'important, c'est que...
Ouais, c'est optional. Ben
ça,
ouais.
C'est un functor, par exemple. Ouais. Donc, les développeurs Java font des functors.
Parce qu'en fait, tu peux appliquer dessus, tu peux appliquer une autre fonction dessus sans le savoir. Il n'y a personne qui le sait. Et puis voilà, c'est très bien. Tout le monde l'utilise et c'est très bien. C'est ce qu'on veut. Qui est-ce qui se...
Ça permet de donner des noms, en fait, à des choses que l'on utilise dès qu'on commence à coder en Scala. Je pense à option, par exemple. Au début, on s'est pas donné un nom à ce truc-là, donc on dit je vais boxer mon type avec un type option, et si je vais te le donner et je t'indique dans le type que la valeur peut être nulle ou pas. Et on se rend compte que en explicitant ça dans le langage et dans la façon dont on écrit ces fonctions et les types qu'on retourne et choses comme ça, ça donne vraiment des super pouvoirs pour les utilisateurs, pour le code que tu écris. C'est ce qu'on voit apparaître en Java 8. C'est pas révolutionnaire, c'est des principes qui sont vraiment vraiment sympas. Et ça fait partie de la programmation fonctionnelle. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut faire en dehors de la programmation fonctionnelle, mais c'est vraiment des choses qui permettent d'avoir du code qui est beaucoup plus concis et surtout qui est beaucoup plus plus sûr, quoi, qui peut pas péter. T'as pas d'effet de bord, t'as pas de.
C'est ça qui est bien d'ailleurs. Donc après, quand on est curieux, on va se renseigner, qu'est-ce que c'est, etc. Ah oui, ça vient de principes mathématiques, etc. Donc c'est super, mais c'est vrai que pour la plupart des gens, ils utilisent quelque chose et puis voilà, il y a plus personne qui se souvient quel est le meilleur algorithme de triage sur pour tel type de collection, etc. On utilise. Puis après, c'est vrai que bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver. Ah oui, c'était ça parce que ceci, cela.
Donc là, on voit que Java 8 a amené les lambdas, a amené optional, même si c'est pas vraiment comme vous utilisez option dans ce cas-là, c'est un peu plus restreint, qui a l'idée des streams, etc. Que Java 9, dès qu'il arrive, va arriver avec un nouveau système de modules.
Justement, j'avais lu tes questions, je fais « Ah bon, c'est arrivé ?» Non.
Ouais. Du coup... est-ce que si vous aviez à repartir aujourd'hui, vous pensez que vous...
Est-ce qu'on ferait du Java 8 aujourd'hui pour gagner de l'argent?
Non, est-ce que tu ferais du Scala pour maintenant ou est-ce que tu serais resté finalement dans le monde Java?
Le gros avantage de Scala, c'est quand même au niveau de tout ce qui est API, librairie, etc., c'est vraiment très très bien fait, c'est très consistant. Bon, Java n'est pas aussi consistant pour des raisons historiques, hein, de toute manière. Mais ouais. C'est ça qui est bien d'être parti après, c'est qu'ils ont une librairie sur les collections, etc., qui est super, qui est vraiment bien. Et qu'on ouais. peut,
et puis on ils l'ont cassé à un moment, du coup.
Par contre, la Scala doc est pas aussi bien, parce que des fois quand on regarde, c'est là, qu'est-ce que ça veut dire, etc.
Elle est difficile ouais. à lire.
Mais par contre, les librairies, tout ce qui est collections, etc., c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas trop de questions à se poser, en fait.
D'accord. Vraiment intuitif. Ouais. Il n'y a pas, en fait, ce qui est marrant en ce cas-là, c'est que contrairement à ce que j'ai vu dans le monde Java pour Java 8, il y a pas l'effet où tu dois connaître un pattern, où tu dois être défensif. Tu parlais d'optional tout d'abord, il y a pas de surprise en ce cas-là sur la façon dont on l'utilise. Sur les collections, il y a pas de problème de typage, simplement parce que ça a été fait différemment et ça a un coût sur la compilation, sur la lenteur de compilation du langage, parce que il y a pas de secret, il y a pas de magie. Pour que Scala puisse faire plus de choses que ce que l'on peut faire en Java 8, il y a un coût qui est à payer à un certain moment, quoi. Moi, aujourd'hui, je pense que je resterai sur Scala parce que je suis dans le monde des startups depuis 3 ans. Et c'est vraiment, je pense, un langage qui a répondu à mes attentes. Et qui me permet, en fait, d'aller chercher une communauté, des outils ou des gens sont un peu différents. Ils sont pas forcément mieux, ils sont juste différents et qui répondent mieux aux besoins qu'on peut avoir quand on est côté startup.
D'accord.
Comme c'est société de service, nous, vraiment, ça dépend de l'équipe avec qui on va travailler ou si jamais on travaille tout seul et après de qui reprend derrière le projet. Donc c'est plus un critère comme ça. Après, nous on préfère faire du Scala. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude maintenant, etc. Et que c'est vrai que les jeunes développeurs qui nous rejoignent, etc., ils sont vraiment enthousiasmés par ça. Mais c'est très bien que Java évolue. Et après, il faut pas aussi les gens de Scala crachent sur la soupe avec Java. Bon, Java quand même a réussi à maintenir une backward compatibilité incroyable. Donc c'est bien sûr en Scala il y a pas ce problème. Donc voilà. Il y a des contraintes
alors
de partout.
Alors Java 9, ça va changer. Hein, parce que...
Oui, on dit ça. On verra quand il sortira.
Ouais, écoute, pour tester les versions là, qui sont et faire essayer de faire marcher les librairies, on en suit un peu là.
Ah, d'accord.
Et sinon, du coup, autre question. En réaction un petit peu à ce cas-là, il y a d'autres langages qui ouvraient... beaucoup d'options, beaucoup d'approches. On a bien vu que du coup, il y avait des familles de librairies qui étaient soit très fonctionnelles, soit très hiéroglyphiques, soit voilà. Et du coup, il y a d'autres langages qui sont sortis, je pense, en réaction à ça. Alors les deux que je connais un petit peu, c'est Kotlin et Selon.
Ouais. Voilà. Et très bon langage aussi d'ailleurs.
Qui veulent se dire, nous, on essaie que pour un problème donné, en gros, il y ait une solution. Vous en pensez quoi, vous, de cette réaction?
Moi, en fait, je me dis que si ça se trouve, Ceylon est un meilleur langage que Scala, et c'est certainement vrai. Connaissant Stéphane et Bardo.
Exactement.
Et que Nicolas connaît bien Stéphane, ils ont bossé ensemble. Donc, sur le papier, ça se trouve, le langage, il est 15 fois mieux. Malheureusement, il faut pas juste avoir un super langage pour que ça marche. Java est bourré de défauts, et pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des langages leaders. Que ça soit dans l'enseignement, dans l'industrie, enfin, on peut ne pas aimer Java, je parle bien de Java, hein. On peut ne pas aimer le langage, en tout cas, il faut constater que c'est quand même l'un des langages les plus utilisés, malgré ses défauts. Scala, ça va malheureusement, pour Ceylon et Kotlin, je pense qu'on est parti pour suivre la même aventure. C'est un langage qui est appuyé au départ par le monde universitaire, qui lui a donné ses bases, ensuite par le monde, par la création de TypeSafe en 2011 et le fait d'évangéliser et d'expliquer aux gens en allant dans les conférences, ce qui a provoqué que des frameworks ont basculé et se sont mis à utiliser Scala, comme que ça soit AK, que ça soit Play Framework pour la partie web, Spark et autres, ce qui tire les utilisateurs et ce qui tire qu'en fait le langage est utilisé, quoi. Donc en fait, la morale, elle est que même si Kotlin et Ceylon étaient des langages géniaux, je sais pas ce que ça va donner. Kotlin a eu un petit sursaut avec le monde Android il y a quelques temps. On a re-entendu parler de Kotlin autour d'Android. Ceylon, je ne sais pas. Cette année, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de présentations. C'est difficile, c'est vraiment difficile pour celui qui veut lancer son projet, et j'ai beaucoup de respect pour le travail qui est fait sur Ceylon. Après, moi, aujourd'hui, je pense que le risque sur Scala est beaucoup moins important. Et par exemple, je ne prendrais pas le risque de faire du Haskell pour la majorité de la stack logicielle chez nous. Après, on pourrait faire des petits projets avec Kotlin, avec Ceylon. Mais j'ai du mal à croire, malheureusement, et je vais pas me faire des amis en disant ça, mais il faut être honnête. Moi, j'ai du mal à croire que Ceylon et Kotlin vont réussir à percer. Il y a eu un momentum il y a 2-3 ans quand ces langages-là se sont lancés sur les fondations du fait qu'effectivement Scala avait et a certainement des points faibles. Et après, ça coûte beaucoup d'argent et ça rapporte pas grand-chose de créer un langage. Et ce qui rapporte de l'argent, c'est le service qu'on peut vendre par-dessus. Et quand je vois que TypeSafe avec LightBlend vient juste de passer ce cap-là et on est en 2016, ils ont mis 4 ans à y arriver avec 43 millions de dollars de financement derrière.
Il faut savoir rester positif, Nicolas, sinon ils vont nous détester. Non, c'est des langages très jeunes.
On peut être positif et réaliste. Ouais. Je veux bien avoir tort.
C'est des langages assez jeunes. Hein. Scala a 10 ans quand même. Hein. Donc voilà, c'est long, ça a quoi, 4 ans, hein, si je me souviens bien.
Je sais plus, mais un truc dans ce goût-là. Ouais,
et en fait, on verra bien quand Red Hat refera son JBoss en Ceylon. C'est ce que je me tue à dire. Mais c'est comme d'habitude, c'est pas vraiment le langage lui-même qui attire les gens. C'est l'écosystème et les outils. Donc voilà pourquoi Scala a une popularité de plus en plus. Premièrement, framework web. Deuxièmement, on voit bien tout ce qui est big data, c'est tout fait autour de Scala, etc. Et libéré comme AK, par exemple, pour dont besoin particulier pour l'échange de messages entre différents serveurs, etc. Donc, c'est les outils, c'est pas le langage en lui-même. C'est ça, en fait. On peut créer le meilleur langage du monde, etc. Enfin, de toute manière, il y a toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à dire. Hein. Le problème, c'est ça, c'est pour être utilisé, faut avoir les outils et faut vraiment, avoir une. Donc, s'il y avait quelque chose qui était fait en JBoss, par exemple, on refait le JBoss, etc. C'est sûr que là, de suite, les gens se mettraient parce que quoi, c'est un projet open source. Du coup, les gens contribueraient en Ceylon directement, etc.
Donc, c'est un peu ça. Ce qui se passe sur Angular 2 avec TypeScript.
Hein. Exactement.
À réconcilier les développeurs Java avec le monde JS. Quand on parle avec des devs JS purs, hardcore, Angular JS, c'est pas leur meilleur framework. Peu importe, on s'en fout. Angular 2 fait une rupture du langage, ils partent sur TypeScript. Ce qui est en train de se passer, c'est que comme les gens veulent suivre ce mouvement-là, et bien TypeScript est en train de démarrer vraiment fortement, et on peut dire que c'est un langage qui est mieux que JavaScript, c'est quand même assez facile de le dire, mais ça marche parce qu'à un moment donné, il y a des projets comme Angular 2 qui sortent du bois, quoi. Donc côté Ceylon et Kotlin, si on a effectivement des choses qui attirent les personnes, ça permettra à ces projets-là, à ces langages-là, d'avancer et de se développer, quoi.
On verra bien ce qui se passe, de toute manière tout est possible. Ceylon est un langage qui est super, hein, mais le problème c'est tant qu'il y a pas, il y aura pas quelque chose qui est un gros projet open source, quelque chose pour mettre les gens à contribuer.
Il y en a peut-être, mais moi j'arrive pas à citer un projet. Kotlin, j'ai le mot Android qui me vient en tête parce que j'ai entendu parler.
Ceylon,
je sais pas.
Pas encore. Mais c'est dommage parce que le boulot est excellent, hein. Mais bon. voilà quoi après.
Ça marche, ouais. Ça marche. Bon, allez. Mais on sent bien que Nicolas, elle, essaie de ne pas se faire d'ennemis.
Pas du tout, Stéphane, sinon, Stéphane, il va arriver. Il va me crever les pneus de mon vélo.
C'est ça. Parce que, merde, voilà. Sinon, on va sauter. Vous en as parlé un petit peu, Nicolas M. XKCD, mot-clé 303.
Alors traduit donc, pour les auditeurs.
Ouais,
parce que ça veut
donc
dire.
Les gens qui sont en train de jouer à se tabasser avec des épées, et le boss qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous faites, et le gars qui répond, ça compile. Donc c'était fait pour C++, je crois. Mais en fait, ça se reproduisait bien sur Scala, en tout cas, les versions jusqu'à...
Alors, sur ce point-là, Nicolas Leroux et moi, on n'est pas d'accord. Enfin, on peut en parler deux minutes, parce que mais ça n'a rien à voir avec TLIG. Commence pas. Non, ce que moi, je trouve que le compilateur Scala est lent. Il est vraiment lent. Ça serait mentir que de dire qu'il est... Voilà. Il s'est amélioré. Après, il est lent parce qu'il fait beaucoup plus de choses que ce que fait le compilateur Java. Donc, c'est pas qu'il boit des bières pendant que ça compile ou qu'il joue à se battre avec des épées. C'est qu'il fait beaucoup plus de passes. Je crois que c'est 9 passes qu'il fait sur le code. Et quand on regarde dans le répertoire target, il génère beaucoup plus de bytecode. Et même aujourd'hui, sur une machine récente, je suis désolé, Nicolas, ça reste plus lent que quand je faisais du play 1 en Java.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas,
mon compilateur.
Ça c'est sûr. Mais ça s'est vachement amélioré. Enfin, il y a tout qui s'est amélioré, hein. Ton MacBook s'est amélioré, etc.
Ouais,
enfin, mais ça va dans le bon sens. Tu sais, il y a 15 ans aussi, quand on commençait avec Linux et Java, c'était affreux aussi, hein. Tout le monde disait « Ah, vous ferez jamais C, c'est quand même 100 fois plus rapide pour compiler, etc. » Puis maintenant, regardez où on est. Donc, bon, ça ne peut que s'améliorer, quoi.
C'est vrai que...
Ouais, mais ce qui s'est amélioré, c'est la VM. Hein. C'est pas... Enfin, le compilateur, il... paradoxalement, il fait de moins en moins de boulot dans Java.
Arrête de détruire mes arguments.
Sur Scala 2.12, Scala 2.12 va, qui devrait sortir là d'ici la fin de l'année, utilise beaucoup plus Java 8, les Lambda et tous les nouveaux features, Avoc Dynamics et compagnie. Donc on va vers le mieux. Et après,
ce qui a énormément, énormément amélioré, c'est SBT. Au départ, c'était affreux, horrible.
Ouais.
Et maintenant, ça, enfin, avec la compilation incrémentale, etc., c'est quand même beaucoup mieux. On recompile pas tout le projet.
On va vers le mieux, mais c'est vrai que les premiers contacts avec le compilateur Scala, quand on vient du monde Java,
oui, non, c'est beaucoup plus lent,
quasiment plus un temps de compilation, fait que c'est, enfin moi je me suis revenu 15 ans en arrière en disant tiens c'est marrant, ça prend du temps pour compiler quoi, et puis après tiens c'est marrant, le ventilateur de mon CPU est à fond la caisse et je pourrais faire une merguez dessus.
Ça c'est bien quoi, c'est fait exprès pour.
Est-ce que tu développes, tu développes dans VI, dans le...
Non, ça n'a rien à voir avec IntelliJ ou VI. Enfin, tu prends...
Non, mais dans le train, tu développes en VI pour éviter de sucer ta batterie.
J'avoue que...
Comment tu as deviné Et c'est bien pour l'environnement. Ouais, regarde, on dégage de la chaleur, on utilise au maximum reconversion d'énergie, etc.
Après, on compile... Enfin, on discutait avec Nicolas. Moi, j'ai aussi une autre façon de développer et j'ai mis du temps à comprendre. Au début, je compilais tout le temps parce que surtout quand tu fais du play 1 ou du play 2, je compilais, enfin, je m'appuyais sur le navigateur pour savoir où j'en étais. Et quand j'ai commencé à basculer sur Scala, c'était un peu plus lent. Donc, quand je dis plus lent, c'est que j'attends 5-6 secondes. Alors, juste pour les auditeurs, quand je dis attendre, c'est qu'en fait, entre le reload et la page s'affiche, j'attends 3-4 secondes. Donc, je parle pas au début de 9 minutes,
ouais,
hein.
Ouais, c'est pareil. 3-4.
Mais 3-4 secondes, c'est assez frustrant quand on en fait 400 par jour.
Je sais pas,
et
parce que j'ai quelques mecs qui travaillent sur un projet, qui sont en JSF, etc. Tu sais, ils attendent 3 minutes à chaque fois, hein.
Ah, on a dit qu'on parlait, on parlait pas des vêtements, pas de nos mères et pas de JSF. Il y a 3 sujets qui sont tabous sur lesquels on n'a pas le droit de parler.
Ah, pardon.
Mais après, avec SBT, il a le compilateur incrémental.
Ça, c'est pas mal, hein.
Et typiquement, quand je développe sur Play Framework, Play 2, par exemple le CFP d'Evox France, donc je le lance et je le mets en auto-compilation. Donc dès qu'un fichier est modifié, il ne recompile que ce fichier-là. Play est bien fichu, donc on n'a pas besoin de recharger un contexte. Il est complètement sans état, donc qu'on soit au fin fond de son framework, de son 5e formulaire, il s'en fout complètement, ça marche très bien. Et sur Chrome, j'utilise Live Reload, qui permet en fait de recharger la page automatiquement. Donc je suis dans mon éditeur, donc IntelliJ, je tape mon code, machin, et je fais exprès de sauvegarder, donc je ne lance pas la sauvegarde automatique, ce qui a pour effet de déclencher ma compilation. Je vois que c'est bon, et là, quand je vais sur mon navigateur, c'est déjà rechargé et je peux avancer. Donc, en faisant comme ça,
c'est ce que je fais tout le temps.
On est productif.
C'est ce que je fais tout le
mais
temps.
Au début, je faisais pas comme ça et je m'énervais. Je disais, donc il faut se réadapter. Mais c'est vrai que le compilateur, je trouve quand même reste un peu plus lent. Ouais, après, c'est parce qu'il fait beaucoup de choses.
Voilà. Non, il est beaucoup plus lent. Mais en même temps, ça devient de plus en plus acceptable. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quoi, il y a MacBook Pro qui vont sortir, donc quelque chose comme ça. Donc voilà, hop, pas, mais... 50% en plus moins de temps de compilation.
Ouais, je sais pas si c'est les CPU, ils s'améliorent. Ah non, après, si tu me dis le compilateur Scala se met à s'appuyer sur les GPU pour gagner en performance, d'accord.
Peut-être.
Mais... mais du coup, vous avez transitionné un petit peu sur le build et la façon dont vous développez, ce qui est intéressant. Pareil, SBT, très mauvaise réputation initiale. Ouais. C'était quoi? C'était vraiment la lenteur qui faisait ça?
Lenteur, et il y avait pas de documentation du tout. Donc là, ils ont fait
très compliqué. Ouais. Il était, moi, j'ai détesté SBT et j'ai bâché SBT. Je fais très régulièrement à Paris des BBL, donc des présentations en entreprise sur Scala, et je termine par un slide en donnant les conseils des choses qu'il faut aller voir et des choses qu'il faut pas aller voir de suite. Et dans les choses qu'il ne fallait pas aller voir de suite, je mettais SBT. Et les gens me disaient, t'es en train de nous dire que le build tool, faut pas qu'on le regarde. Donc aujourd'hui, j'ai changé mes slides. Alors SBT, c'est Simple Build Tool, mais
ils l'ont renommé Scala Build Tool. C'est plus simple.
Non, c'est vraiment plus simple.
Ça s'appelle Scala Build Tool.
En fait, la doc, comme tu dis, Nicolas, n'existait pas. Donc aujourd'hui, la doc existe.
Il y a eu plein de changements d'API entre temps. Parce qu'en fait, il y a un an et demi, je crois, ils étaient en version 0.7 ou un truc comme ça. Là, on en est déjà en 1.1, un truc comme ça. Il y a énormément de progrès qui ont été faits sur l'API et documentation. La documentation, maintenant, il y a vraiment un site. C'est Scala SBT ou quelque chose comme ça, .org. Et c'est vraiment complet maintenant. Et c'est vrai que c'est pas mal.
SBT, pendant longtemps, en fait, je comprenais pas. Et SBT, en fait, au lieu de lire la documentation ou de prendre le temps d'apprendre, le premier contact que j'avais avec SBT, c'était en lisant les fichiers SBT de projets que je connais, comme Play Framework ou autre, et c'était assez compliqué. Emmanuel, pour te donner une analogie, je suis allé voir ce week-end le fichier Maven de Hibernate OGM. Alors je l'ai lu parce que je suis développeur Java et j'ai reconnu des choses. Je suis allé voir les sous-projets et à un moment donné j'ai décroché en me disant je comprends pas ce qu'il fait. Mais parce que je suis plus à la page de Maven et je me dis que si j'étais à la page et si je me remettais dedans, je retrouverais un peu mes petits quoi. Et pourtant Maven est un très bon outil de build. SBT, il y a un petit peu de synapse-con, il y a des histoires de retour à la ligne, il y a des trucs un petit peu magiques qui font que effectivement les gens sont pas habitués à ça. C'est un DSL déclaratif qui permet de compiler, d'exécuter des tests, de packager, enfin il permet de faire tout ce qu'on peut faire avec Maven, il permet de récupérer les dépendances, donc il est indispensable et il faut savoir...
L'idée est plus ou moins la même que de Gradle, hein, de toute manière c'est un peu la même chose.
Ça ressemble à Gradle en fait, voilà, c'est plus proche de Gradle que de Maven, et j'ai vraiment décroché le bonnet d'âne de SBT. J'ai vraiment compris comment marchait SBT en prenant le temps vraiment de bosser, d'écrire mes propres fichiers. C'est donc un peu de ma faute, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué SBT comme moi parce que ils lisaient des fichiers SBT déjà faits au lieu d'essayer de les réécrire eux-mêmes. Et on a les mêmes histoires dans le monde JS en ce moment avec les package managers, dependency managers. Les gens poussent des cris d'offrée en disant Bower c'est de la merde et tout ça. Non, ces outils-là sont bien faits, mais simplement il faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. Et SBT effectivement, maintenant ça va mieux.
Mais t'es dans une industrie où on a de plus en plus d'outils à apprendre. Donc là, on va parler un peu après de machine learning et d'analytics. Tu vois, on a de plus en plus de nouvelles stacks à apprendre. Si le truc aussi simple, enfin, aussi basique que le build te demande, t'es obligé de te flageller en disant, non, c'est de ma faute, j'ai pas pris les 15 jours pour apprendre proprement.
15 jours, tu es gentil.
Problème, quoi.
Là, t'as, non, Manuel, il a... Emmanuel a complètement raison. Effectivement. Après, aujourd'hui, tu peux construire ton projet avec Gradle si tu veux.
Par contre, ce qui est pas mal pour revenir à Play aussi, c'est qu'il propose des templates.
Tu peux utiliser Maven aussi. Tu peux aussi utiliser Maven pour compiler ton projet Scala. Après, tu te retrouves avec 800 lignes de XML. Donc,
l'idée de Maven, c'est que quand même, tu as ton IDE ou tu as quelque chose qui te génère tout ce XML. C'est pour ça qu'ils étaient faits à XML.
SBT marche SBT est très bien supporté dans IntelliJ. Je connais pas Eclipse, donc je peux pas m'avancer là-dessus, mais sur IntelliJ 14 et même la 13, la façon dont nous on travaille chez Captain Dash, c'est que tous nos projets, même ceux qui sont faits avec Play, on a un build SBT à la racine, et on n'ouvre pas un projet IntelliJ, on ouvre le fichier SBT qui, lui, va nous déclarer IntelliJ les dépendances. Et ensuite, je clique sur compiler dans IntelliJ et le code est compilé. Donc SBT a le même comportement qu'un POM XML.
Oui. C'est juste que c'est juste la façon de faire. L'idée de Maven, c'était que quand même, c'est l'outillage qui s'occupe. Donc on a des interfaces utilisateurs et on rentre dans l'interface utilisateur. Alors que SBT, l'idée, c'est que quand même, c'est du code et c'est aux développeurs de coder. Donc c'est sûr, c'est un peu une approche différente. Quoi.
Ouais. Ok. Alors, on était censé parler des stacks et des autres frameworks, mais comme je vois le temps passer,
on est désolé, on parle trop.
Je vais faire un méga résumé.
Note que c'est surtout Nicolas qui parle.
Non, mais c'est en fait vous êtes habitué au compilateur, donc vous parlez beaucoup maintenant entre collègues.
Ah, c'est voilà, méchant c'est ça. Ouais, enfin bon, il vaut mieux attendre et avoir des résultats probants que d'avoir du JavaScript et de faire du refresh sans arrêt, hein, parce que je suis pas sûr qu'on...
Non, mais après, si le compilateur, il est deux fois plus lent, mais que j'ai à écrire 50% de tests unitaires par rapport au reste...
J'utilise
ça, c'est avoir, exactement hein. Ça. Non, mais c'est ça. Hein. C'est ça.
En tout cas, voilà, sur la stack, donc Play reste un des gros frameworks dans l'univers Scala. Nicolas, tu fais un lien vers un... Alors, Nicolas M, tu faisais un lien vers... Vous êtes chiant. Je vais vous renommer. Tu t'appelles Bob et... Non, c'est github.com/loris, ah. LAURIS/awesome-scala. Et ça explique pour un besoin donné, pour un besoin de librairie donnée, quelle est celle qui est le plus utilisée ou le plus recommandée dans Scala, c'est ça?
Bah, en fait, ça marche en Java, en Ruby. Donc, Awesome Scala... c'est une liste de projets open source qui sont majoritairement sur GitHub et qui vous permettent, quand vous cherchez un driver pour MongoDB, vous cherchez le meilleur outil pour faire de la base de données, du machine learning, enfin un framework web et ainsi de suite, et c'est appuyé avec le nombre de committeurs, le nombre de followers, le nombre de stars sur GitHub. Évidemment, c'est pas à prendre comme parole d'évangile, mais ça évite de réinventer sa propre librairie alors qu'il y a juste à côté une librairie qui existe, ou ça évite d'utiliser JodaTime, comme je vous disais tout à l'heure, alors qu'il y a d'autres librairies en Scala qui font le même job aussi bien et qui sont sympas. Voilà, donc c'est une liste de projets qui est sympa à parcourir.
Et comme ça, vous allez découvrir qu'en fait, il y a plein de frameworks web, on parle que de Play, mais en fait, il y en a plein d'autres en Scala.
Ouais.
Ah bon?
Bah, tu sais, les frameworks web, il y en a plein partout. Hein. C'est pas non plus...
Non, en Haskell, tu vois, tu es sur Mac 2.
Et attends, j'avais une question du coup. Oui, les gens ils font pas d'Hibernate par exemple.
Et là,
mais si en fait ils doivent en faire, mais on n'est pas au courant.
En fait,
non, mais c'est une question.
Mais le principe.
C'est quoi
de
le principe que vous
bah,
utilisez
en fait,
vous
Il n'y a pas de principe de l'ORM. Enfin, je dirais que ORM c'est un anti-pattern avec la façon. Enfin, on peut en parler vraiment longuement, mais le principe de l'ORM, tu vas me corriger si j'ai une connerie. C'est avoir à un moment donné.
C'est de mapper ton objet. Oui, c'est ça. Mapper ton objet.
Tu auras une abstraction entre ton data storage, ton repository avec ta base de données et ton code applicatif qui s'en sert. Et l'ORM, l'idée, c'est, enfin pour Hibernate, c'est vraiment de dire, bah d'une part, je vais t'abstraire les liens qu'il y a avec les liens techniques avec la base de données, et d'autre part, je vais t'aider à améliorer ton code, je vais même te cacher des choses. Et tout ça avec des objets qui sont en mémoire et des objets qui sont mutables, qui sont des objets qui représentent ce qui vient de la base de données. Dans le monde Scala, enfin, vas-y,
non,
Nicolas.
c'est toute cette idée de, justement, en Scala, ils font très attention à les objets qui peuvent muter, c'est pas le mieux. Donc, dès le départ, c'est pour ça qu'il y a Val, etc., où on essaye d'avoir une immutabilité de partout, et bien sûr, c'est pas trop compatible avec tout ce qui est ORM. Ceci dit, ouais. Si on regarde Slick, par exemple, ça se rapproche vraiment de Hibernate, par exemple.
Il y a par contre des frameworks qui te font l'abstraction entre ton code et par exemple générer du SQL. Donc ça existe. Il en existe plein. Ouais. Il y a Anorm, il y a Slick qui font que tu n'écris pas du SQL ou tu écris un SQL dégradé ou tu écris pas du tout de SQL. Donc il y a.
Tu vas écrire du SQL mais de manière TypeScript, c'est tout le principe de ce truc. Anorm ne le fait pas ça, mais par exemple Slick, oui. Ouais. Mais l'idée, c'est de pas trop cacher la base de données aux développeurs Java, en fait. Au Java, en ce cas-là. Donc, c'est plus. Et puis après, c'est tout ce qui est avoir des choses qui sont immutables, parce que après, on peut les passer dans fonction. Donc, on est sûr, on est garanti que ça n'a pas changé entre deux. Et s'il y a deux objets qui accèdent en même temps, qu'il n'y a pas de différence, en fait.
D'accord. Donc, on va passer à la partie 2, Scala en entreprise. Ah. Nicolas M, je crois que tu as fait un petit sondage sur ton blog.
C'est fou, il lance un Twitter et puis il y a 6000 personnes qui lui répondent. J'ai jamais très bien compris.
238 personnes. 238 personnes.
Ah, mais ça va.
ce qui est pas
mal. Et 5000 fois la même. C'est toi.
Non, je pense pas, parce qu'il y a vraiment des gens qu'on dit... Il y a 20% des gens qui disent qu'ils feront jamais de Scala. Donc je vous remercie, je vous fais tous un gros bisou à tous ces gens qui ont effectivement pris le temps de répondre à ces quelques petites questions. En fait, l'idée, moi je me demandais, mais qui fait du Scala? Alors j'ai mis en France, désolé Nicolas pour la Hollande, qui fait du Scala en France et en dehors de la France?
J'ai envoyé un Twitter et j'ai dit qui fait du Scala en Hollande et j'ai pas eu de réponse. C'est bizarre, hein, personne.
Tu l'as dit en français.
Tu l'as mis en français, ouais.
Ah, c'est pour ça.
Ben en fait, on se pose toujours la question, est-ce qu'on est une bande de fous, on n'est que 30 personnes et en fait, on vit un rêve éveillé, ou est-ce qu'effectivement, on est quand même pas mal. Clairement, il y a quand même beaucoup de boîtes en France qui font du Scala. Je vais pas toutes les citer, mais j'ai découvert que la Gendarmerie Nationale faisait du Scala, par exemple, chose que je savais pas. Des boîtes que je connais comme Singularity, Criteo, Clever Cloud, donc Lunatech, dont Nicolas parle en France.
C'était quoi le service cryptologie de la Gendarmerie Nationale, c'est ça?
Je sais pas.
Il faut que du Scala.
iAdvice qui est à Nantes, Performance Imo où j'ai bossé, Mythic, et puis il y a des boîtes de services comme Ibisnext, Octo, Xebia, Singularity. Mais en fait, ouais, le premier enseignement, c'est qu'il y a pas mal de monde qui en fait. Alors évidemment, c'est tout petit par rapport au nombre de gens qui font du Java. Mais souvent, on me dit, ouais, il y a aucune boîte qui recrute des développeurs Scala. Ce n'est pas vrai.
Non.
Il faut les chercher au bon endroit. Il faut les chercher au bon endroit. Et j'ai beaucoup de mes copains qui me disent, nous, on recrute des développeurs, t'as pas des gars et machin, et je fais beaucoup de passe-plats.
Nous, on recrute d'ailleurs chez Lunatech en France, hein, si vous voulez faire du Scala.
Redis-le une deuxième fois.
Nous recrutons des développeurs Scala à Lunatech France.
Voilà.
Tu sais, ça coûte de faire de la pub sur les casques.
Ah, c'est vrai. nous recherchons aussi des développeurs, c'est long. C'est bon?
Là, ça fait deux pubs.
deux pages de pub. Ouais.
En Hollande, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a d'énormes compagnies qui passent sur Scala, mais complètement. Il y a ING, une des plus grosses banques en Hollande. Eux, ils ont dit 1300 développeurs qui vont passer en Scala. Donc, la plupart étaient en Java. Et ils passent tous en Scala. Donc, ça leur prend 3-4 ans, je pense. Mais c'est assez intéressant. Il y a Vcamp, qui est en fait l'équivalent de Zalando en Hollande. Pareil, ils ont tout passé en Scala. Rabobank, donc une autre banque qui met, et après il y a pas mal d'assez grosses boîtes en fait qui passent dessus. Intéressant aussi à noter, c'est qu'en Hollande il y a Ordina qui, je pense, c'est un peu l'équivalent de Capgemini ici en Hollande. D'ailleurs ils doivent être, je crois qu'en fait c'est une sous-branche de Capgemini. Enfin bref, ça y est, ils ont leur division Scala où ils sont déjà 10 personnes, je crois. Il y a beaucoup de recrutement en Scala en ce moment. Donc c'est ça qui est. Donc c'est. Je pense que ça se passe comme ça en Europe. En Allemagne, je sais que Zalando.
Les formations.
Recherche.
Les formations que vous donnez chez Lunatech, ils viennent d'où les gens qui viennent chez vous?
Ils viennent d'où, c'est-à-dire? J'ai pas compris.
C'est des.
Les gens qui viennent se former. On a un peu de tout. Il y a soit des SS2I comme nous. Soit c'est des grosses boîtes aussi qui viennent faire leur formation chez eux, ou on va chez eux faire la formation, ou nous, ce qu'on aime bien, c'est mixer les teams, c'est-à-dire nous, on a nos développeurs qui vont directement faire un projet avec les leurs, comme ils apprennent en même temps, c'est plus efficace en fait. Et Zalando, je sais qu'ils migrent aussi toute leur IT. Alors, ils sont énormes aussi. Donc, je crois que ça doit être à peu près 800 développeurs qui passent en Scala aussi. Donc, il y a vraiment des grosses boîtes qui commencent à s'y mettre. Ceci dit, Java a toujours la majorité du marché. Mais ce qui est intéressant, c'est Scala, la progression. Donc, je crois qu'il y a eu 40% de progression de marché. Donc, c'est pas mal. Ça reste une niche, hein, par contre. Mais c'est.
Donc, t'as bien fait de devenir CEO, alors.
Ouais, voilà.
40% de croissance, c'est quand même plus sympa que.
Oui, non, exactement. Mais nous, on était combien? Il y a 2 ans, on était 15, là, on est 50. Donc oui, on suit la progression Scala.
Pas mal. Et du coup, je vais enchaîner sur un sujet qui est un peu connexe. Comment est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous cherchez des développeurs Scala? Est-ce que vous cherchez des développeurs et vous les scalaisez? Voilà, c'est intéressant de voir, parce qu'on parle d'un moteur de niche. Peut-être que vous n'êtes pas sur les bons forums entre les demandeurs et les demandants. Et voilà, du coup, comment vous faites?
En fait, nous, les développeurs Scala en land, ça n'existe plus, je pense. Ils sont tous freelancers parce qu'ils ont remarqué qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est vrai qu'on recrute soit sortis d'université, on les forme nous, soit des développeurs Java mais qui ont vraiment la passion et pareil qu'on forme. Il y a très peu, en fait maintenant sur le marché il y a très peu de développeurs Scala en fait.
Côté Capitaine Dash, donc moi je suis arrivé à l'été 2014 et ceux qui faisaient du Scala venaient directement d'école d'ingénieurs où étaient développeurs Ruby. Il n'y avait pas de gens qui venaient du monde Java. Et aujourd'hui, on a une personne... Moi, je suis allé débaucher des gens dans des SS2I qui s'ennuyaient, qui étaient des brutes en Java et qui avaient envie de travailler sur des projets côté éditeur. Et éditeur plus Scala, en fait, ça fait un beau produit d'appel. J'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté directement, qui étaient des parfaits débutants. Et puis, majoritairement, quand même, des développeurs Java... qui ont une petite expérience en Scala et qui veulent ensuite passer à d'autres types de projets. Mais sur ZapTravel, c'était beaucoup plus difficile en 2012-2013. À un moment donné, j'avais des gros doutes sur Scala en me disant, je crois que je me suis planté. Et puis en fait, c'est parce que je cherchais à prendre vraiment des gens très consanguins comme moi. Et ça a fonctionné quand j'ai pris des gens qui n'étaient d'autres univers, pas du tout de la communauté Java. Clément, Mathieu, Guillaume, enfin les gens qui ont bossé chez ZapTravel étaient des gens qui venaient d'autres univers, du monde Ruby, du monde JS, et qui se sont formés sur Scala. Alors clairement, ils n'avaient pas tous la même facilité pour apprendre et ensuite la même aisance, mais je sais qu'il y en a deux qui sont partis, un au Canada, un aux États-Unis. Mathieu, il est à New York et Clément, il est à Montréal. Ils ont été débauchés par des grosses startups, donc cool pour eux. Voilà, le recrutement c'est un peu plus difficile. Et après, le processus de recrutement pour Capitaine Dash, c'est que nous on fait coder les personnes, donc on les passe d'abord en entretien pour que on puisse voir un petit peu la personnalité, comme tout entretien classique. Et on leur donne ensuite un exercice de programmation qui prend à peu près une bonne semaine à résoudre. Donc ça teste aussi la motivation parce que y en a qui redonnent plus une nouvelle et puis il y en a d'autres qui reviennent 3 jours plus tard avec l'exercice complété et 3 idées différentes et 5 nouvelles idées en plus. Et ça les met aussi dans la réalité de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront embauchés et que le lundi ils vont commencer à bosser. Donc on fait pas des exercices sur le tableau théorique pour classer des trucs, on leur demande pas la population d'Aura dans le métro londonien, on leur fait faire des vrais exercices sur du code de données qu'on a chez nous et on essaye de leur faire partager un peu ce qu'on fait. Comme ça, si ça leur plaît pas, ils viennent pas, et puis si ça leur plaît, ils viennent.
D'accord. Et alors, parenthèse dans la parenthèse peut-être, j'ai un CTO, alors pardon, j'ai un président directeur général et un directeur technique. Est-ce que vous avez encore le temps de coder?
Bien sûr, entre minuit et 2h du matin, et le week-end de temps en temps.
Non, moi je suis tout petit, enfin nous on est 16 personnes. On est 8 dans l'équipe développement et c'est clair que je mets les mains dans le code et il y a des parties sur lesquelles je suis vraiment le lead pour un des produits chez nous, un des composants chez nous et je forme quelqu'un pour me remplacer, mais je reste encore vraiment et avec plaisir les mains dedans. Après, sur une semaine de 5 jours, je dirais, je dois avoir en temps effectif peut-être 2-3 jours de programmation. Je passe beaucoup de temps avec les clients, en avant-vente, en suivi, en recrutement.
Devox aussi.
Devox, c'est soir et week-end. Donc, et puis quand Devox monte en charge, bah, je prends des vacances de Captain Dash et je le pose des jours pour faire du Devox France. Mais là, en ce moment, on a rangé tous nos cartons et là, je ne fais pas de Devox France du tout. Donc là, voilà. Et non, j'arrive à coder. Et en fait, Scala est plutôt un langage qui reste lisible. Donc j'arrive à lire le code que font mes développeurs. Je me prive pas de leur dire quand je comprends rien. Je pense qu'ils ont bien compris que mon passage chez AppTravel m'a formé à du code pragmatique. Donc des fois, je suis un peu violent, mais c'est pour leur bien. Et parce qu'une startup vit à crédit, on n'a pas le luxe de partir dans 3 mois de développement. Donc j'essaye de leur inculquer vraiment l'idée d'avancer petit à petit et pas d'essayer de faire tout de suite. Mais ça, ça marche plutôt bien. Et ouais, je continue à coder. Et puis quand je m'ennuie, et ben, je fais du Devox France le week-end en faisant le CFP de temps en temps.
Moi, je code énormément de tout ce qui est application interne, en fait. Ça va beaucoup plus vite quand je le fais, moi. Et, donc ça, je continue à le faire. Puis après, c'est... Non, mais très sérieusement, c'est soir et week-end. Hein. J'ai pas trop le temps dans la journée. Quoique là, ce week-end, par exemple, j'ai codé la démo qu'on va faire à Scala D, donc c'est, je me suis mis donc JavaScript et WebGL pour avoir une démo qui soit digne de ce nom, hein, Berlin. Donc il faut quand même démo scène, etc. Par contre, c'est pas fait en Scala JS.
Il était temps du coup parce que c'est cette semaine.
Ah bah oui, bah c'est pour ça.
Ouais, ouais, on se retrouve là-bas. Ouais.
Oui, là, ah oui.
C'est d'ailleurs l'agriculture des développeurs Scala.
Berlin, oui, donc ça va être sympa, hein. On va pouvoir regarder le football. Ah non, pardon, voir toutes ces belles conférences.
C'est ça. Alors j'ai deux grands autres thèmes. Des fois, on voit des styles architecturaux qui sortent avec des communautés, en fait. Alors après, que la communauté, elle vient d'un langage ou en tout cas d'une plateforme. Donc... les ORM, ça existait avant, mais c'est vrai que ça a été énormément popularisé dans l'univers Java, dans C#, l'univers .NET, CQRS, c'est venu de là. Est-ce que dans ce cas-là, il y a des choses un peu comme ça?
Un peu idiomatique, bah, et un petit peu, ouais, ce qui est microservice, c'est un peu le buzzword à la mort, mais après, c'est intéressant d'aller voir que,
c'est tout langage, hein.
Oui, c'est tout.
Ouais, bon, mais derrière, t'as des frameworks.
Rattrapé, quoi.
Ouais, il y a des frameworks, qui permettent de démarrer sans faire trop de bêtises, côté Scala pour faire du microservice, propre, et surtout, du vrai, pas celui qu'on fait à les conférences, mais du vrai qui part en prod et qui génère du cash. Sur ce cas-là, je pense que ouais, le côté machine learning, le côté big data est vraiment
très présent.
Et l'architecture, en fait, il y a vraiment un principe, le principe d'immutabilité fait que quand tu tapes une ligne de ce cas-là, tu peux très bien faire du code qui est mutable et tout ça, ça peut partir en production, mais quand tu fais du Scala et tu en fais normalement, tout ton code est immutable, donc il y a beaucoup de façons de coder qui sont différentes. Moi, j'ai remarqué que tout ce qui est injection de dépendance, on peut s'en passer, en fait. En Scala, tout est objet, une fonction, c'est un objet, donc tu peux écrire un bout de code, faire une variable qui est une fonction, et tu vas affecter la fonction que tu veux utiliser à l'exécution. Tu peux faire des choses qui sont inimaginables dans le monde Java, et la conséquence, c'est qu'en fait, je dis pas que t'en as pas besoin, mais je dis que tu as moins besoin, par exemple, de l'injection de dépendance, qui pour moi est très très liée au monde Java. Dans le monde Scala, on peut vivre sans. Il y a des façons de programmer, comme le cake pattern, qui permet de le faire. Donc on retrouve des choses un peu différentes. Donc au début, on a envie de mettre du Spring, et puis après, on se dit, bah en fait, j'en ai pas besoin.
C'est aussi cette même notion que ça doit se faire à tout ce qui est au temps de compilation et pas au runtime, en fait. C'est ça qui est plus intéressant, parce que en fait, l'injection de dépendance, c'est au runtime, et donc c'est une idée aussi que ce soit plus sûr. Voilà. C'est cette idée derrière.
Quand tu compiles du code Scala, l'idée, c'est que vraiment, quand on te dit, quand t'as le petit signal vert te disant que le code est compilé, la différence avec le monde Java, c'est que, en Scala, on essaie de te dire, t'auras pas un class case exception, t'auras pas un null point exception, t'auras pas, un reference not found et t'auras pas un runtime exception. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment t'ennuyer sur le code que tu vas écrire. On va te forcer à brancher des types là où en Java tu le ferais pas. Bah là tu vas être obligé de le faire. Ce qui est héritage dans le monde Java est assez cool. Dans le monde Scala c'est très strict. Donc si tu veux faire de l'héritage montant, descendant, covariance et contravariance, il faut que tu le dises au compilateur, sinon il va te taper dessus. Il y a un livre que j'encourage vraiment tous les développeurs Java à lire, le livre de Venkat Subramanian sur Pragmatic Scala. C'est un livre qui a été écrit pour les développeurs Java qui veulent se mettre à Scala. Il tape des exercices en Scala, il décompile avec Java P, donc on voit le bytecode, on voit le code... qui est généré, et j'ai trouvé que ce bouquin-là était bien quand on a des questions existentielles sur pourquoi ils font ça en ce cas-là. Et après, pour vraiment comprendre les bases du langage, faut aller se tourner vers d'autres bouquins, mais ce livre-là, qui est dans la collection de Pragmatic Developer, c'est un bouquin vraiment que je conseille, qui se lit vraiment rapidement, et qui attaque par la partie orientée objet, donc on se retrouve dans un univers familier quand on vient du monde Scala. Et en refermant ce livre, vous aurez vraiment vu ce que peut apporter Scala par rapport à Java. Et je pense que vous direz, ah, il y a quand même des trucs qui sont pas mal, quoi. J'en suis vraiment convaincu. Donc voilà.
D'accord. Et tu parlais d'immuabilité, là, qui était un des trucs assez
forts.
Importants. Ouais. Java, la VM en tout cas, elle a pas été designée avec ça en tête. Donc, qui dit immuabilité dit plus de création d'objets, mais plus court, enfin, et qui après bouge plus. Est-ce que vous voyez, vous, des impacts au niveau besoin mémoire, au niveau temps de garbage collector, ce genre de choses?
Non. C'est vraiment étonnant.
Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai.
C'est étonnant parce que j'ai pensé comme toi, Emmanuel, au départ. J'ai vraiment pensé pareil que toi. Je me suis dit, mais tout ça, c'est pas gratuit. Enfin. C'est pas free lunch, quoi. Donc, à quel moment je vais me prendre un coup de bambou? Est-ce que c'est quand je vais lancer mon code et que je vois qu'il faut beaucoup plus de mémoire pour que ça fonctionne? La réalité, c'est vrai pour le langage Java aussi, hein, c'est que ce typage fort, cette immutabilité, elle est d'abord renforcée au niveau de la façon dont on écrit son code. Ce qui fait que le compilateur, donc avant même que tu lances ton code en prod, le compilateur va déjà aussi pouvoir optimiser. Il va pouvoir se rendre compte que ce type-là, tu le changeras jamais, que cette référence-là, tu la modifieras jamais. Donc lui va pouvoir prendre des décisions qu'il peut pas prendre si tu lui laisses la possibilité. Enfin, si tu lui dis, ça c'est pas private static final, c'est ça peut changer à un moment donné. Et j'en suis pas sûr. Donc il y a aussi cette passe là qui est pas négligée, qui fait que le code en prod ça prend pas plus de mémoire. Moi je dirais même plutôt l'inverse. Nous les machines qu'on a chez Zaptravel, les out of memory qu'on se prenait, c'était sur le scrapper qui était fait en Java. Sur la partie Scala, on n'en a jamais eu. Et on avait 60 000 visiteurs, donc ça tapait bien gentiment dans les machines, ça fonctionnait plutôt bien. Donc il y en a certainement qui vont te dire au contraire qu'ils ont vu plus de out of memory en ce cas-là. Je pense qu'ils les ont peut-être vus à la compilation. À l'exécution, c'est plutôt safe. Après, savoir comment c'est fait derrière, c'est au-delà de mes connaissances, donc je vais pas faire comme si je savais, je sais pas t'expliquer pourquoi. C'est juste un partage d'expérience là.
Moi c'est vrai que on n'a jamais eu trop de on n'a jamais eu de problème spécifiquement là-dessus. Bon, après il y a toujours si le développeur a fait des choses aussi incongrues, bon ben voilà, ça se répercute, mais ça c'est valide dans n'importe quel langage. Donc, non.
D'accord. Du coup, on va refaire une passe sur l'analytics parce qu'on l'a un petit peu saupoudré pendant la discussion. Effectivement, quand on parle de l'univers Hadoop et Spark en particulier, Scala a explosé en popularité. Donc, quand on parle des langages un peu dans ces univers-là, on a tendance à penser R, mais en fait, Scala est très populaire parce que c'est des petits morceaux de code très concis, puis il y a des DSL qui sont construits
Que
finalement les gens l'ont adopté parce que l'outil était en Scala nativement. Donc il y a des librairies et des bindings, mais au final les gens se sont dit bon, de toute façon je démarre de zéro, donc pourquoi pas. Vous voulez en parler un peu plus?
Bah, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, c'est vrai que c'est maintenant, Scala est surtout populaire, enfin très populaire sur ces outils. C'est ce qu'on disait. En fait, c'est pas le langage en lui-même, c'est plus l'outil et les gens qui viennent à l'outil après. Et là, on voit d'ailleurs, on voit que Scala est très bien fait, puisque bah, eux, ils n'ont pas besoin de savoir comment Scala fonctionne, qu'est-ce que c'est un functor, une framework. Ils s'en foutent complètement. Ils utilisent, ils mettent leur petit bout de code et voilà quoi. Donc c'est ça qui est bien avec Scala d'ailleurs. Ou ce serait un peu plus dur à faire en Java, je pense, pour le moment.
Okay. Il y a des choses qu'on peut comparer. Akka existe en Java et en Scala. Donc le framework Akka, c'est un framework d'acteur qui permet d'écrire des architectures distribuées, mais ça permet aussi d'écrire une application qui fonctionne sur une JVM, mais qui partage des tâches, qui monte en charge. Sur le CFP de Devox France, il y a du Akka qui est embarqué avec Play. C'est ce système-là qui va passer sur tous les sujets des speakers et leur dire quand ils ont oublié de le soumettre. C'est le même système qui va t'envoyer des mails de résumé. Donc c'est un système qui fait vivre l'application, je dirais, en dehors du fait que quelqu'un clique dans l'interface. Et Akka existe en Java et en Scala. Et c'est vrai aussi pour Play. L'API en Java, elle est difficile. Moi, j'ai fait la formation il y a 2 ans sur Akka, Java et Scala, et sur Java, j'en garde un mauvais souvenir. Je garde que c'était verbeux, que c'était difficile, et on sentait que c'était un effort pour aller chercher des développeurs Java, alors que c'est dommage, parce que Akka en Scala est simple, et en Java, je trouvais que c'était beaucoup trop... Il y avait beaucoup trop de cérémonial pour faire la même chose. Et comme j'avais les deux sous le nez, bah forcément, moi j'ai vraiment préféré travailler avec Scala pour le coup. C'est là qu'on voit l'intérêt d'un langage comme Scala, hein, et on comprend que effectivement ça puisse attirer des gens et que voilà, des sociétés se lancent là-dessus pour certaines briques comme le framework web, le traitement de charges réparties, de tâches réparties. Du machine learning, il faut aller voir aussi le code de la mllib qui permet de faire du machine learning, elle est 100% Scala, elle est vraiment sympa pour le coup, elle est vraiment facile à lire, et elle permet à des gens qui sont pas très très développeurs dans l'absolu d'écrire du code pour modéliser du machine learning assez facilement. Donc voilà.
Tu dis c'est machine learning, pas matching.
Machine learning.
C'est parce ouais. qu'il fait trop de pattern matching.
C'est ça en fait. Ouh. Il est passé ouais. chez un des comment ça s'appelle matching.com. Ok, c'est marrant parce que vous, finalement vous dites ce cas-là c'est plus lisible.
Bah, en fait, t'as moins de code à écrire. Ça paraît bête de dire ça. On a l'impression que c'est une évidence. Non mais c'est vrai que à écrire pour faire la même chose et même parfois plus. Je suis allé m'amuser à regarder sur Stack Overflow les questions des gens sur Java 8 là sur les optionals. Il y a un gars qui dit j'ai une liste de int, comment je fais pour trouver le max dans cette liste. Ouais, là il y a 5 réponses alors que le stream blablabla bla, bla, enfin bon OK, on voit que c'est génial et bah en ce cas-là et sur n'importe quelle collection, sur n'importe quel ensemble, il y a une fonction qui s'appelle max et elle retourne l'élément le plus grand. Et si c'est je comprends pas que enfin il manque j'espère que Java va aller vers ça. Il manque un peu de concision pour que vraiment Java et si Java fait ça, je pense que ça gardera un énorme attrait pour les développeurs et Scala aura moins d'éléments différenciants, il sera pas mieux, il sera pareil et les gens resteront dans l'univers Java. Et ce que je vois sur ce qui se fait sur Java 8, les gens qui ne connaissent pas Scala vont trouver ça génial. Mes grands copains qui font du Java depuis des années trouvent ça génial et ils vont en parler en conférence, mais si on pose le crayon quelques instants et si on challenge ce qu'ils écrivent et ce qu'ils racontent avec ce qu'on fait en Scala, ils vont pas passer un bon moment malheureusement et ils s'en rendent pas compte. Donc j'espère que Java va continuer à pousser et que il va peut-être casser quelque chose. Moi je trouve que je comprends pourquoi il y a les streams en Java, mais je trouve que du coup bah c'est dommage, on a fait que la moitié de la route. Là où je serais pas cool, c'est avec les gens qui prétendent que Java 8 est plus simple que Scala sur fonctionnel. C'est de la malhonnêteté intellectuelle ou c'est juste pour garder un précaré ou pour essayer de rester, de s'accrocher ou de se rattacher à quelque chose. Alors que les gens, les développeurs, eux, ils évoluent et ils sont pas bêtes. Hein. Ils voient bien que c'est beaucoup plus concis et donc plus facile à lire. pour faire la même chose au final, quoi. Et ça peut faire mal aux gens qui font du Java, malheureusement.
Elle, tu voulais dire un truc?
Non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est que tout ce qui est librairie est vraiment collection est vraiment vraiment bien fait en ce cas-là. Et c'est un peu, il y a énormément de fonctions, de méthodes sur chaque librairie. Et du coup, il y a à peu près tout, quoi. C'est ça. Et c'est en même temps, c'est ça qui fait sa force, mais en même temps, au départ, est un peu rebutoire parce qu'il y a énormément de choses. Donc c'est juste là-dessus. Après, en Java 8, c'est un bon début, mais c'est pas quand on lit le code, il est pas aussi clair que dans ce cas-là. Bon, après, il y avait d'autres contraintes, etc. Mais bon, voilà. C'est juste que je voulais.
D'accord.
Dire.
D'accord.
T'as résumé beaucoup plus simplement ce que j'ai raconté. C'est bien.
Faisant moins d'ennemis en plus.
Ouais, mais
c'est très diplomatique, vivre à l'étranger, c'est ça?
Ouais, non, mais c'est un bon point, Emmanuel, parce que, je fais toujours une distinction sur les opinions que je peux avoir avec les gens, et quand je critique un langage, j'attaque pas une personne en particulier. Et je sais que si je critique Groovy, je sais que Guillaume va me tomber dessus, mais c'est pas, je critiquerai pas le langage. J'ai été un peu étonné il y a 2 ans, où vraiment des attaques sur le langage Scala, sur la mailing list des cascodeurs. Il y a un côté un peu foire du village qui est marrant 5 minutes, mais à un moment donné c'est au même niveau que les gars qui à Marseille se jettent des chaises sur la tête en disant moi je suis supporter de l'équipe d'Angleterre et toi t'es supporter russe. Et à un moment donné c'était un peu la place du village des cascodeurs. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de regrettable. On cherche pas à comprendre un petit peu ce qui est le langage. Moi, depuis que je bosse, je sais que j'ai essayé toujours d'apprendre différents langages, frameworks, technologies. Je suis pas d'accord avec tout, mais j'essaye de comprendre les opinions et les places des autres. Et autant sur Groovy, on peut pas se permettre une critique, sinon Guillaume nous tombe dessus. Autant sur Scala, c'était un peu la fête au village. Et c'est dommage parce que je trouve que les gens qui font aujourd'hui du Scala sont pas les mêmes qu'il y a 2-3 ans. Dans le sondage que j'ai fait cette semaine, on s'est rendu compte avec Nicolas que 50% des gens ont débuté il y a moins de 2 ans en Scala. Donc ça veut dire que c'est un langage qui est en cours d'adoption et que c'est pas un langage qui est lancé. C'est pas un langage qui se vend comme étant le prochain Java. C'est un langage qui est différent. Moi j'ai pas vraiment de religion, parce que j'ai plus une vision entrepreneur aujourd'hui qu'une vision développeur. J'essaye de trouver un langage qui me permet de réussir avec la société pour laquelle je travaille. Et par contre, c'est vrai que je suis blessé quand, effectivement, on s'attaque bêtement au langage et on se gargarise de ça. Je vois pas où est-ce qu'on va aller. Je sais pas la frontière entre l'humour et la médiocrité. Des personnes, et je sais qu'en disant ça je vais en faire certainement sauter certains de leurs chaises, mais personne ne se lève pour le dire. Donc voilà, moi je suis là pour dire je pense que Scala a une place à prendre, que l'industrie prouve que effectivement il y a quelque chose à faire, et il faut pas avoir peur de ses opinions. Moi j'ai pas peur de dire que c'est un langage qui est sympa, que c'est une communauté de gens qui sont cool, qu'on va rencontrer cette semaine à Berlin avec Scala Days, qu'on peut voir à Scala.io et que je vois à Devox France. Et c'est quand même sympa d'avoir des gens qui aiment bien leur métier, comme j'en ai eu et j'en vois tous les jours dans la communauté Java. Et c'est à ne pas perdre de tête, quoi. Il y a le langage, les outils, les frameworks, et il y a aussi la communauté, les gens qui font du Scala. Et globalement, les gens sont cool, quoi. Et ils sont quand même des gens qui se font plaisir et qui ont un langage qui est sympa. Et ils se posent pas de questions, ils se font pas de nœuds dans le ventre sur Java. Il faut se laisser vraiment porter, voilà. Donc c'était un petit passage par rapport aux réactions que j'ai pu voir ces derniers temps sur la mailing list des cascodeurs.
Mais les,
Moi, ça fait un certain temps quand même.
Ouais. C'est plus sujet à la mode. C'est ça qui est pas mal d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que Java, en Scala, ça va de pair, hein, comme on dit. Hein, l'écosystème Java est largement réutilisé en Scala, donc faut pas aussi se leurrer là-dessus. Et après, c'est bien les gens qui aiment faire du Scala, ou on peut très bien commencer en faisant du Java dans du Scala, c'est très bien aussi. Après, les gens qui veulent pas se découvrir, très bien, ils veulent pas découvrir, c'est pas gênant, mais Après, il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer avec Clojure, avec etc. C'est aussi très intéressant. Hein. Je recommande aux gens de jeter un petit coup d'œil aussi. Ça ne veut pas dire non, c'est nul parce que c'est pas ce dont j'ai pas l'habitude. Non. Bon, après, il y a comme n'importe où, il y a des pour, des contre. Et après, il y a le contexte. Et chaque personne fait qu'elle va choisir ça ou ça. C'est pas. Donc voilà, faut être humaniste, c'est ça. Donc on dit. Je sais pas comment on traduit ça en langage informatique. Tolérant.
Humaniste, ça fait compliqué. Ouais. Et le futur alors?
Le futur de quoi? De Scala ou?
De Scala, la communauté.
Ouais, ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Comme on disait, la niche est en train de grossir. Bon, c'est bien. Après, de toute manière, moi personnellement, je pense que ça sera toujours une niche. Hein.
Moi, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Je pense pas que Scala remplacera Java.
Exactement.
Et je veux bien avoir tort, mais je pense pas sincèrement que Scala remplace Java.
Non, moi non plus. Je vois pas ça du tout. Mais ce qui est intéressant dans Scala, ceci dit, c'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment une communauté de développeurs qui sont tous passionnés. Donc au moins, ce qui est bien, donc c'est souvent c'est des développeurs Java d'ailleurs qui étaient développeurs Java et c'est vraiment des gens passionnés. Donc ça fait vraiment des discussions intéressantes et ça fait des projets intéressants. C'est ça qui est pas mal dessus. Ou en fait oui, on va dire c'est une élite, mais c'est pas vraiment une élite parce que c'est des gens passionnés.
Non, c'est pas une élite. Ouais. Non, c'est pas une élite parce qu'ils sont pas plus intelligents.
Non, exactement.
C'est des gens. En plus, Scala permet de faire des outils, des frameworks, même à destination des développeurs Java.
Oui,
le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Play Framework 2. Tout est fait en Scala. Il y a une librairie Java pour la compatibilité ascendante. Donc, on peut être développeur Java et faire du Play 2, et on se rend pas très très bien compte que les templates qu'on écrit, en fait, ils sont compilés en Scala derrière. Donc, on peut aussi imaginer peut-être demain, je sais pas, un composant d'Hibernet qui est fait en Scala, mais qui a un jar, et ce jar-là, tu l'utilises comme une dépendance Java dans ton projet. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein, Emmanuel.
Je crois qu'Emmanuel va commencer par un composant Celon.
Exactement. En fait, si j'ai du temps, ça sera plutôt par là. Mais
en fait, Emmanuel, on a deux plans secrets. Un, on veut que tous les gens s'appellent Nicolas. Et deux, on veut convertir Emmanuel à Scala. Donc,
mais tu sais que
tu acceptes de changer de prénom, Emmanuel.
En Scala, tu peux écrire du
changer de prénom. Je viens de changer d'adresse. J'ai plus qu'à changer de prénom. C'est les mêmes types de procédures.
Non, en Scala, tu peux écrire des C'est long, hein, pas de problème.
Voilà. Ouais. Non, et sinon, je sais pas, vous mentionnez Scala JS.
Oui. Ouais.
C'est quoi?
C'est pareil, c'est comme c'est long. Il transcrit donc du Scala en JavaScript.
Donc t'écris du Scala, ouais. Ça devient du JavaScript. Ça permet d'éviter de coder en JavaScript si tu fais du serveur, du navigateur.
Mais c'est...
Ça c'est la description de ce que c'est. Oui. Après, je change de chapeau, je mets mon avis. Malheureusement, ça me rappelle des patterns que j'ai déjà vus, que j'aime pas trop, où les gens me disent, j'ai pas envie de faire du JavaScript, donc je vais faire autre langage, et tu remplaces autre langage par ce que tu veux, tu peux mettre Java, ça marche. J'ai deux bons devs JS chez moi, et dont Benoît qui a la casquette Scala et JS, et il est pas super dithyrambique sur Scala JS. Non.
L'idée donc, c'était aussi d'avoir quelque chose qui est plus type safe, etc. en JavaScript. Ouais. Mais quand on voit la popularité de TypeScript maintenant, et TypeScript est très bien fait, je parierais plus sur TypeScript que autre chose d'autre.
Ouais, moi aussi.
D'accord.
Donc non, je pense que ça sera vite dans les calendres de l'oubli d'ici 2-3 ans.
C'est beau ça. Ça pourrait presque être le mot de la fin, mais je voulais parler. On a entendu parler de projets pour un Scala Next, Dotty,
compilateur, etc.
C'est au niveau compilateur, ça, d'accord.
C'est en fait l'idée, c'est que le compilateur est trop lent, donc je sais pas, ils ont plein d'idées à l'EPFL et puis on attend de voir. Parce que j'ai pas tout compris. Il a fait une présentation, j'écoutais pas trop en fait. Il y avait quelques bières et voilà. Je sais pas si t'as
assez la veille en fait, c'est ça la bière.
mais on va pouvoir revoir la présentation.
On va pouvoir reboire des bières et essayer d'écouter les présentations.
Mais en fait,
c'est apparemment le
compilateur, il fait je sais pas combien de passes là en ce moment. Et l'idée, c'est qu'il en fasse beaucoup moins et qu'il garantisse quand même tout ce qui est check au niveau compilation, etc.
Ouais, donc c'est j'avais 8 retiré pas mal de boilerplate.
Ouais, sur aussi ce qui.
Mais effectivement, il a lancé ce projet-là. oublié le nom, Martin Odersky. Et derrière, il y a du jus de cerveau à l'EPFL qui bosse là-dessus. Donc, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Pour l'instant, je pense que c'est encore un petit peu loin de ce cas-là. Mais c'est vrai que Odersky est quand même un bonhomme qui a 56, 57 ans. Et je pense qu'il a, il a pas terminé d'avoir des idées. C'est quelqu'un qui a des opinions assez arrêtées sur ce cas-là et qui est très à l'aise avec le fait que le langage ne soit pas 100% fonctionnel, mais qu'il vienne chercher l'orienté objet et qu'on puisse écrire du code qui est complètement impératif en ce cas-là. Là-dessus, il a très clairement expliqué à maintes reprises pourquoi. Donc il s'est un peu aussi frité avec les gens qui voulaient faire vraiment du fonctionnel dans ce cas-là. Et ces gens-là sont un peu déçus. Enfin, c'est des gens-là qui faisaient beaucoup de bruit, sont un peu partis de la communauté où on les entend moins aujourd'hui. Alors, je pense qu'il a... Voilà, Odersky, il a réussi à positionner le langage et il a réussi à trouver vraiment des points qui font que les gens s'y intéressent et que quand on commence à coder en ce cas-là, on n'a pas l'impression de perdre son temps. Et que on se dit oui là vraiment c'est un langage qui est en rupture autant que quand moi à titre personnel je suis passé du C au Java. Je me souviens que Java, le fait que ça puisse tourner sur toutes les machines, que je puisse compiler et que ça parte en prod, ça c'était vraiment génial pour moi. Le garbage collector où j'avais plus besoin de gérer la mémoire, donc tout ce plaisir que j'ai eu avec Java, j'ai d'autres plaisirs avec Scala, avec d'autres façons de faire. Et c'est ça qui est important, quoi. Si les développeurs Java, quand vous avez eu le petit effet waouh et que ça vous manque, je pense que Scala est un bon langage pour continuer, et ça vous rend aussi un meilleur développeur Java. Vous ferez d'un petit peu de fonctionnel mieux quand vous remettrez les mains dans le monde Java. Et donc, est-ce que Manuel, tu veux changer de prénom, t'appeler Nicolas, et est-ce que tu veux faire du Scala?
Ah, c'est pas le 1er avril.
J'ai enregistré la réponse après.
D'accord.
Non. Écoute, non, mais c'était intéressant de. L'idée, c'était d'avoir votre feedback sur comment on fait en concret, et puis effectivement de casser le bashing automatique.
On verra.
On casse PHP encore, voilà. Donc là, c'était intéressant de, comme quand même,
ce qui est marrant, c'est que même
cousin de Java que PHP, voilà. C'est...
Même en PHP, il y a pas mal de trucs qui sont faits, hein, quand même. Ils avancent bien, quoi.
Oui, mais bon.
Et là, non, mais ce qui va être intéressant justement, parce que je sais que donc le Doty projet, c'est vraiment c'est cette idée d'avoir un compilateur qui soit beaucoup mieux, plus rapide, etc. Donc c'est pour ça, on verra bien s'ils arrivent à peut-être dans quelques années, on a un compilateur super rapide aussi, et là du coup, ça changera pas mal de trucs aussi. Hein.
Ouais. Mais après, moi personnellement, j'ai pas vraiment de manque. La verbosité m'a jamais vraiment gêné. Mais comme tu disais, Nicolas M, il faut essayer pour le croire, entre guillemets.
Non, mais c'est toujours bien. Ce qui est marrant, c'est que dans ces longs, en fait, il y a vraiment plein de trucs qui sont pas mal du tout. Bon, c'est plus verbeux de ce cas-là. Bon, après, en ce cas-là, on peut faire de la verbosité si on veut aussi. Mais il y a énormément de principes qui se rejoignent, hein, de toute manière, dans les deux. Donc, c'est pour ça que toi, ce serait intéressant. Et vice versa, moi, j'ai fait un peu de ces longs aussi. C'est vrai que il y a plein de trucs qui se rejoignent quand même. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, je meurs.
Yes. Bon, peut-être, alors, j'hésite entre Stéphane et Nicolas. J'apprends. Ça marche. Bah, écoutez, merci les gars.
De rien.
Merci de l'effort parce que ça a été compliqué.
Les agendas à gérer,
parce que vous êtes un peu occupé. Voilà. Ouais. Il faut qu'on s'achète des secrétaires.
Moi, j'en ai déjà une. Elle parle que hollandais.
Merci Emmanuel pour les casse-codeurs, parce que j'en profite un peu là, comme j'ai le micro quelques secondes. J'entends à chaque fois le logo a été fait par Nicolas Martignol, et ça fait plaisir, au bout de, je sais plus, 50 épisodes là, de voir que t'as continué ça et que tu mènes ça vraiment comme
super,
un chef.
Ouais.
Moi, j'apprécie toujours d'écouter, de hurler, de dire made in la merde. Et là, j'espère qu'il y a plein de gens qui auront dit qu'on a dit de la merde, ou des plein de gens qui ont dit on a dit des trucs sympas. Mais merci pour les casse-codeurs.
En fait, on a mis plein de messages subliminaux dans le. Donc après, normalement, vous devrez tous vous mettre à Scala et vous allez tous vous convertir. Par contre, on n'est pas intégriste, donc ça va, vous êtes avec les
bons. On n'est pas scalafiste.
Voilà, scalafiste.
On n'est pas scalafiste.
Non.
En tout cas, merci. Ça fait toujours plaisir d'entendre que les gens aiment bien les casse-codeurs.
Mais c'est bien, l'étranger, c'est bien, ça fait un petit peu... j'écoute souvent, parce que...
Petit îlot de France.
Ben ouais, non, mais c'est ça, en fait, hein, c'est que... Non, c'est vrai. Donc, non, c'est vrai que c'est pas mal. Merci beaucoup, encore.
Ça marche. Merci. Bon, bah, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, même si vous étiez anti-scalafiste primaire. Et puis, bah, j'imagine qu'ils veulent vous encourager à essayer. Donc, vous allez sur c'est quoi, scala-lang.org et puis ouais, vous téléchargez le SDK et boum.
Ouais, ou alors brew install scala et puis c'est fini.
Ouais.
Ou pardon.
Et après Eclipse ou IntelliJ ou exactement, Atom. Toi ouais. Tu utilises Atom, c'est ça?
Moi j'utilise Atom parce qu'en fait c'est vachement bien, il complète rien, donc t'es obligé d'apprendre toutes les librairies par cœur au bout d'un moment. Donc...
Ouais, d'accord.
moi j'ai plus de 40 ans contrairement à Nicolas, donc j'utilise IntelliJ.
Moi j'ai 40 ans aussi.
Je porte des lunettes.
Ah bon. Non mais c'est en fait j'ai à présent je faisais pas ça, mais c'est vachement hein, ça t'entraîne ton cerveau à savoir où quelle est librairie, quand, quoi, etc. Donc c'est pas mal du tout.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que pour débuter ça soit l'outil idéal.
Ah, c'est vrai. Non, pour débuter prenez plus IntelliJ. Alors apparemment Nico a des parts dans la compagnie.
Exactement.
Ça marche, allez, ciao les gars.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.